Avant de vous souhaiter donc la bienvenue pour cette deuxième séance de notre séminaire ici en langue, qui est donc toujours dédiée au lien entre la traduction, l'édition et la synergie des deux, c'est-à-dire la circulation des savoirs, aussi bien dans le domaine des livres que dans le domaine des revues. Aujourd'hui, ça sera la première séance d'une série de trois, en fait, qui sera précisément consacrée aux enjeux du numérique et son impact sur le monde éditorial. La priorité aujourd'hui sera donnée aux revues, avant de passer la prochaine fois aux livres et après aux bibliothèques, parce qu'évidemment la situation se présente différemment pour ces trois domaines. Voilà, pour le dire donc plus largement, c'est une question, c'est l'arrivée et maintenant plutôt le développement ou la mise en place plus massive du numérique nous met devant des défis qui sont très différents et qui ont changé le rapport à l'objet et au circuit de circulation des savoirs. La traduction là-dedans sera donc un sujet plus précis, probablement, oui, c'est assez probable qu'on s'axera davantage sur l'anglais, parce que c'est ça la grande question. Donc on aura toujours cette priorité qu'on donne à l'anglais, parce que tout simplement c'est l'enjeu le plus long, et aussi l'enjeu certainement auquel les éditeurs sont massivement en face, c'est aussi la plus grande demande. Ça ne veut pas dire qu'on exclut les autres, ça va toujours revenir aussi les autres langues dans les autres séances, mais aussi ici en marge. Donc aujourd'hui on fera un petit parcours. Là, je simplifie beaucoup et tu pourrais absolument revenir là-dessus tout de suite après, mais je dirais quand même un parcours, disons, d'un modèle éditorial plus classique, c'est-à-dire un éditeur scientifique qui a joué selon les règles du jeu pendant des décennies, qui doit donc réinventer sa formule pour affronter ces nouveaux défis, surtout donc dans le domaine des revues. Et face à ça, on aura ce qui représente peut-être le plus ce changement où on va quand même le dire, même pour évoquer la contradiction, l'utopie du Open Access représentée par Pierre Monnier qui ne va pas tarder d'arriver. Donc je te passe la parole pour la présentation d'une intervenante.
Donc effectivement l'idée c'était de vous présenter des expériences, sachant que ici dans la salle il y a de nombreux rédacteurs, éditeurs de revues avec des expériences différentes. Donc l'idée, c'est qu'on puisse aussi avoir une discussion un peu riche sur les enjeux et les solutions concernant voilà, l'internationalisation des revues et le rapport à la traduction et les modèles économiques. Alors Pierre arrive incessamment sous peu. Il y a eu un petit souci de salle. Il pensait qu'on était en France. Je ne sais pas pourquoi. Il est bien mouillé. Hein. En attendant qu'il arrive, je vais présenter Sandrine Voisin. Donc Sandrine est responsable de la politique commerciale des presses de Sciences Po, qui comprend les droits étrangers, mais aussi l'internationalisation des revues. Peut-être toute la diffusion finalement
des presses. Diffusion et distribution des presses.
Alors, avant cela, Sandrine a aussi travaillé plusieurs années au BIEF, au Bureau international de l'édition française, dont on a parlé la dernière fois, où tu t'occupais des sciences humaines. Et avant cela, tu as aussi eu une expérience au Mexique,
de libraire.
Donc, des postes différents dans la chaîne du livre, donc des points de vue qui peuvent être vraiment intéressants et importants pour nous. On t'a demandé aujourd'hui d'intervenir un peu plus précisément sur la diffusion des revues des presses de Sciences Po et les politiques d'internationalisation, sachant que depuis une dizaine d'années, vous avez développé le secteur de façon assez importante et avec des solutions tout à fait originales. Et voilà, on t'a demandé surtout de faire part de cela et qu'on puisse en discuter avec Pierre et donc le Cléo, Revue.org, que vous connaissez tous. Mais il ne s'agit pas de discuter des modèles de diffusion de façon large, mais bien sûr de se concentrer sur, sur les possibilités offertes pour faire circuler des textes traduits, d'une part, et quel modèle pour internationaliser les revues qui sont celles qui sont diffusées par, soit par les presses de Transpo, soit par le Cléo, sachant que le Cléo diffuse aujourd'hui des revues en plusieurs langues, et du côté multilingue, Pierre va également parler. Donc, pour peut-être... alors, je ne sais pas si on l'attend pour que tu commences à parler, ou bien...
Voilà, on fait un tour de table pour savoir...
Oui, peut-être on doit faire un tour de table, effectivement, d'autres...
qui sont, du coup, comme ça, les fonctions aussi voilà, de
pour
chacun.
Pour laisser ton arrivée, ce sera plus agréable pour lui. Francis, ça commence, si tu veux.
Oui. Oui, bon, oui. Alors, Francesca Hanfle est maître de langue à l'EHESS et responsable du programme de traduction franco-allemand de la NSH. Donc, je m'occupe d'un domaine très, très, très petit par rapport à l'échelle du monde entier, c'est-à-dire le franco-allemand et les échanges scientifiques entre l'Allemagne et la France.
Voilà, donc Anne-Madeleine, moi je suis responsable des coopérations internationales aux éditions de l'EHESS et je suis aussi chercheur associé au CERSEC, qui est un centre de recherche air culturel. Travaille sur la Russie, l'Europe centrale et le Caucase.
Katerina Gwenzi, maître de conférence à l'EHESS et co-rédactrice en chef avec Cléo Carrasco de la revue L'Homme.
Fanny Brisson, je suis traductrice d'italien et vers le français et j'enseigne à l'école supérieure de la presse de traducteur. C'est une traduction.
Nestlé Lazal, donc je suis enseignante ici à l'école, maître de langue. Et traductrice aussi, de français vers l'avant.
Moi, c'est Catherine Crossel. Je suis aussi traductrice du français vers l'anglais, spécialement des sciences sociales.
Moi, je suis Myriam Perrier, donc c'est de collection de livres en anglais au Centre de recherche internationale à Sciences Po.
C'est Rémi Tour, donc de la revue des Annales, donc sa version française, qui est éditée par les éditions de la chose.
Moi, c'est que mon père, je travaille avec certaines sur la version anglaise.
Bonjour, je m'appelle César Castelli, je suis doctorant en sociologie à l'EHESS, je suis à ADR à l'Université Paris-Diderot dans le département de recherche sur l'Asie orientale. Je suis japonisant et je m'intéresse à la question de la traduction.
Je suis en Master 2 de Collège 4, je suis en Master 2 de politique ici. Et je travaille sur les enjeux de traduction dans le début de la construction européenne.
Alors, c'est mon Orto, doctorante en politique à la Chine. Et dans mon laboratoire, avec des collègues, on a mené un travail de traduction qui a duré 3 ans sur différents articles issus de l'ESPEM, qui est l'un des anciens centres de l'école et des écrits de Grotinski et tout sur l'école. Et il se trouve aussi que je travaille avec Camounier au PO et qu'il y a donc les deux en fait un et que je suis là.
En fait, avec Camounier, vous travaillez...
Je travaille au projet d'internationalisation dans l'Italie.
Ah, très bien.
Donc, faire connaître les plateformes en Italie et apporter du contenu italien sur les plateformes.
Parfait.
Bonsoir, Delphine Maigne, je travaille sur la plateforme Pierre.info. Je m'occupe plus particulièrement des projets de traduction d'articles du français vers l'anglais pour améliorer la visibilité de la vue de l'anglais en français.
Bonsoir, Manuel Abadidia, je suis doctorante à l'EHESS. Je mène une recherche sur la réception de la philosophie française en Amérique du Sud et plus particulièrement en Chili. Je suis traductrice aussi et en philosophie, histoire, un peu de sociologie aussi. Vers l'espagnol.
Merci.
Bonjour, je suis Thierry Lecourt, je suis en M1 en anthropologie sociale ici et je suis aussi traducteur du français, parfois l'italien aussi, vers l'anglais.
Bonjour, c'est Mathias Gallo. Secrétaire auprès de la revue Archives des sciences sociales et de religion, publiée par les choses.
Moi, c'est Bonjour et Date, je suis traductrice du français vers l'anglais, spécialiste en histoire.
Installez-vous. Si c'est une idée de traduction.
Non,
je me suis trompée. Pas de problème. Bien. Effectivement, on est tous sur les enjeux proches. C'est parti.
C'est pas grave.
Je ne sais pas, commençons. Hein.
Oui, ouais. Comme Anne a fait une présentation déjà assez développée, je ne vais pas me représenter à nouveau. Je présenterai plus les presses de Sciences Po et pourquoi finalement, ou ce que je vais aborder ce soir pour ce qui est de l'édition électronique et la diffusion des revues, aussi bien en français qu'en anglais. Et passer pour un éditeur archaïque, puisque nous faisons toujours du papier, et nous diffusons toujours en papier, donc on va montrer aussi tout l'intérêt et tout l'enjeu entre le papier et le numérique, et que c'est pas une économie qui est si simple, en fait, pour les revues, et ça, pour certaines petites revues, c'est pas si simple que ça. Et notre expérience pour la traduction en anglais, puisque ça, on ne traduit aujourd'hui, en tout cas du français, que vers l'anglais. Et j'aborderai un tout petit peu les traductions des langues étrangères dans nos revues en français, mais qui est presque anecdotique, en fait, pour, dans cette idée de circulation. Finalement, il y a assez peu de traductions de langues étrangères vers le français, ou pour essayer d'introduire des nouvelles idées ou des pensées vers le français. Donc les presses de Sciences Po, c'est on est lié à Sciences Po Paris, évidemment. On existe depuis 1975 et on a un catalogue aujourd'hui d'environ 1400 livres. Donc tous publiés en français, diffusés et en papier et en numérique aujourd'hui, en tout cas depuis 7 ans, tous nos ouvrages sont sous les deux formats et on a numérisé une grosse partie de notre fonds. Donc c'est à peu près 700 ouvrages du fonds qui sont numérisés et disponibles, soit en PDF, soit en format EPUB après. Et les presses, on publie et diffuse 12 revues académiques. Il y a une revue qui est plus une revue du coup professionnelle qui s'adresse aux sociologues d'entreprise, mais sinon ce sont que des revues académiques qui sont soit liées à des centres de recherche de Sciences Po, comme Critique Internationale qui est liée aux séries, ou Raison Politique qui est liée à l'école doctorale de Sciences Po, ou des revues qui sont liées à d'autres instituts de recherche publics, comme l'INJEP pour la jeunesse, ou autre part avec l'IRD, qui est l'Institut de Recherche et Développement. Et on a une revue qui nous appartient en propre, qui est 20e siècle. Qui du coup est certes académique mais un peu plus qui vulgarise un petit peu plus et qui a en tout cas un public un peu plus large que juste le public académique. Alors toutes nos revues, pour faire une présentation plus globale, toutes nos revues sont publiées et distribuées en version papier et en version numérique. Donc pour l'instant aucune de nos revues n'est passée sur un modèle économique uniquement de publication en numérique. Le papier a encore un petit peu de sens. Et la version numérique est vraiment la version homothétique du papier. Ça veut dire que c'est la version composée qu'on met en ligne. C'est exactement la même chose, en fait. La diffusion pour nos revues se fait pour aussi bien le français que pour l'anglais via Cairn. Et pour certaines d'entre elles, Cairn et G-Store. Alors, sur les questions de diffusion et de distribution, je pensais que c'était important, avant de passer à tout l'open access et tout l'intérêt du numérique et de peut-être aussi un petit peu un fantasme toute cette diffusion en numérique, qui donnerait une visibilité totale.
C'est encore l'intérêt, en tout cas pour un modèle économique pour les revues, de l'abonnement papier. Parce que sur les... Et du coup, alors c'est sur un modèle économique, mais c'est aussi sur une question de visibilité, puisqu'il y a encore des versions papier qui sont dans les bibliothèques, soit en France, soit à l'étranger. Donc on a encore, pour certaines revues, c'est encore très significatif, intérêt à garder ces versions imprimées, en fait. Donc, je ne parlerai que des abonnements parce que, en tout cas pour la commercialisation et pour le modèle économique, tout ce qui est vente en librairie et tout ce qui est vente à l'unité est aujourd'hui quasiment disparu, en fait. L'impact des abonnements papier, puisque quand même il faut garder à l'idée qu'il faut que la revue puisse exister. Et pour qu'elle puisse exister, il faut quand même avoir aussi des fonds pour réussir à payer tout ce qui est mise en place, tout ce qui est impression, composition, enfin voilà. Donc il y a quand même des coûts structurels qui restent importants. Et du coup, les abonnements papier sont, ou l'impact économique des abonnements papier est assez inégal, en fait, selon les revues. Et du coup, l'intérêt du numérique peut jouer à ce moment-là. Si on a une revue qui est déjà ancienne, très implantée, les revenus en fait des versions papier restent très importantes en fait. Et le numérique, l'édition numérique ne couvre pas encore, en tout cas, les revenus que l'on peut avoir sur le papier. Donc, ce qui est beaucoup moins vrai pour une revue qui a un faible rayonnement, en fait. Alors, évidemment, je ne parle pas de qualité éditoriale, de contenu, mais plus de présence. Alors, pour une revue comme la RFSP, qui est la Revue française de sciences politiques, les abonnements papier représentent toujours 68% de nos revenus, en fait, donc des revenus globaux. Donc le numérique a certes une part, mais on reste quand même sur un modèle économique qui se base sur le papier, en fait. Sachant que tous les abonnés papier ont un accès gratuit à la version numérique. Donc c'est forcément doublé parce que... on ne peut pas non plus aujourd'hui ne proposer que des abonnements papier. Ça ne rentrerait pas. Donc, avec un abonnement à la version papier, ils ont un accès sur Cairn à toutes les versions numériques. Donc, ce chiffre-là qui est très important et qui fait que nous, en tant que maison d'édition, on reste sur un modèle qui est quand même basé sur le papier. Est moins vrai, par exemple, pour une revue comme Raison Politique, pour qui les abonnements papier représentent que 25% en fait des revenus. Donc la question peut se poser de éventuellement ne faire qu'une diffusion du coup en numérique et arrêter parce que ça représente une centaine d'abonnés dans le monde, ce qui peut éventuellement paraître une toute petite diffusion en fait. Ce qui est important, je pense, de voir, c'est que en fait, les enjeux de l'édition électronique, elle n'est pas la même pour certaines revues, et que c'est assez difficile de parler globalement des revues scientifiques et d'essayer de caler un modèle sur toutes ces économies-là. En fait, je pense qu'il faut quand même distinguer ceux qui ont un petit peu plus de potentiel que d'autres. Donc ça, c'est pour la diffusion papier et l'intérêt, en tout cas, pour un éditeur commercial, on va dire, de garder, en fait, ce modèle-là. Évidemment, il n'est plus possible de se passer d'une édition numérique et de faire de la diffusion sur le numérique. Donc c'est Cairn pour toutes les revues en français... toutes nos revues sont en français, et comme nous avons besoin d'un modèle économique, nous avons une barrière mobile à 3 ans. Ça veut dire que les revues ne sont accessibles gratuitement qu'après 3 ans. Et qu'avant ce temps, les abonnements sont payants sur Cairn. Donc c'est commercialisé, je pense que tout le monde sait, via des bouquets. Donc soit c'est un bouquet généraliste, soit c'est après des bouquets par thématique que les bibliothèques achètent. Donc ce qui par exemple est très important pour une petite revue comme Raison Politique, au niveau de la diffusion, c'est que l'édition numérique lui permet, via les offres de Cairn, d'être présent sur énormément dans énormément de bouquets et du coup d'atteindre des bibliothèques qui ne s'abonneraient pas autrement. Mais comme elles prennent le bouquet, du coup, notre revue est intégrée dedans et ça lui offre une diffusion qu'elle n'aurait pas sinon. Donc c'est tout l'intérêt de la diffusion numérique, c'est de pouvoir toucher des bibliothèques qu'on n'aurait pas autrement ou qui se désabonnent de toute façon parce que le nombre de lecteurs est trop faible et qui ne vont pas avoir un abonnement papier et qui du coup, nous, notre vue peut être vue. Sur les modèles, c'est quand même vraiment le système de bouquet ou de licence qui fonctionne. Le pay-per-view étant quand même quasiment anecdotique, en fait. Donc le pay-per-view étant l'achat par un particulier d'un article, c'est plus des consultations via les codes des bibliothèques, en fait. Ensuite, on a décidé pour certaines de nos revues de les diffuser aussi sur G-Store. G-Store étant la grosse plateforme anglo-saxonne. C'est plutôt du patrimonial, puisque nos articles, les articles de nos revues ne sont disponibles sur G-Store qu'une fois qu'ils ont passé la barrière mobile de 3 ans, qui sont disponibles gratuitement chez Cairn. G-Store les achète et les revend, alors qu'ils sont disponibles gratuitement ailleurs. Donc on se pose la question de tout cet open access et du coup d'une offre qui est gratuite, mais que certaines bibliothèques vont acheter alors qu'ils pourraient le consulter gratuitement sur Cairn. Mais qui, du coup, prennent ou achètent l'offre de G-Store parce que je pense que ces plateformes offrent un service, en fait, et c'est au-delà de juste la disponibilité des textes, c'est aussi un service de référencement, c'est aussi déjà un classement qui fait que ça simplifie, peut-être, au niveau de l'utilisation. Donc c'est pareil sur G-Store, on est sur des systèmes de bouquets, les revues en français sont intégrées dans des bouquets généralistes où il y a plusieurs langues, et ça nous permet d'être présents en bibliothèque, alors que la langue française, quand même, les revues en langue française dans les bibliothèques anglo-saxonnes, c'est un peu plus compliqué. Donc là, en étant intégré sur des bouquets thématiques, ça permet d'assurer une présence de nos revues, en fait, même en langue française. Donc beaucoup de ces revues sont aidées par le CNRS en particulier. C'est une aide au fonctionnement principalement et avec des montants qui vont entre 1 000 et 2 500 euros par an. Ce qui bien sûr n'est pas... Donc c'est soit une aide comme ça, soit c'est à travers un salaire. Puisque c'est... ce qui est très important, ça peut être un ingénieur non du CNRS qui est souvent secrétaire de direction des revues, en fait. Donc aujourd'hui, ce qui pour tout ce qui est revue en français, parce que je vais arrêter sur le français, je passerai sur l'anglais après, je reviendrai si vous avez des questions. L'économie des revues sont très fragiles, avec des abonnements qui sont en baisse de toute façon depuis une dizaine d'années. La RFSP, en 3 ans, c'est moins 36% d'abonnés pour le papier, donc ça a un vrai impact quand même économique, sachant que les frais de création de la revue restent les mêmes, à peu près. Et donc on a besoin de ces aides publiques. Et aujourd'hui, le CNRS conditionne ces aides à à ce qu'on rabaisse en fait la barrière mobile à 2 ans. Donc sachant que pour un éditeur qui publie et qui quand même prend une grosse partie des coûts, on va passer sur des revenus qui ne seront basés que sur 2 ans et plus sur 3 ans. Donc pour certaines revues comme Raison Politique, que Raison Politique qui a une grosse partie, 75% des revenus sont basés sur le numérique, on a un tiers qui disparaît des revenus. Et du coup, ça fragilise complètement la revue, puisque du coup, c'est la question se posera même de son existence, en fait. Parce que les coûts, si tant est que Sciences Po continue de financer, voilà, Sciences Po peut aussi à un moment estimer que les coûts par rapport à la diffusion de cette revue sont prohibitifs et arrêtés. Donc, on arrive dans un système, enfin, ou dans un peu une limite pour certaines revues, et qui est une limite un peu vitale. Si on nous oblige à réduire nos temps de revenus, du coup, ces revues, faire des revenus suffisants pour exister sur 2 ans va devenir très compliqué, en fait. Donc, une des options, c'est de refuser l'aide du CNRS, mais ça veut dire aussi refuser le logo du CNRS, et pour certains chercheurs ou pour certains centres de recherche, c'est compliqué, puisque comme une accréditation, en fait, que le CNRS donne. Et en tout cas, cette question, elle ne se pose pas si on parle d'un employé, puisque là, c'est un salaire et que la maison d'édition ne peut pas prendre en compte ce salaire. Donc, on va arriver sur un petit peu une limite, en fait. Mais du coup, la limite, elle est pas tant sur, je pense, sur le côté imprimé ou juste en open access. Ça va être même sur l'existence de cette revue si, en tout cas, nous, notre institution publique, ne finance pas, en fait, cette revue, elle va disparaître. Donc voilà. Après, sur tout ce qui va être diffusion, le rôle des presses de Sciences Po, en tout cas, c'est aussi d'en assurer la promotion. Donc, c'est le site Internet, c'est des mailings, c'est les réseaux sociaux. Enfin, voilà, c'est tous les outils qu'on peut avoir aujourd'hui pour pouvoir remettre en avant et promouvoir nos revues. Donc, ça, c'est pour l'édition française, en fait, et toute la diffusion en français. Après, on a, pour les langues étrangères, donc l'anglais, principalement. On a lancé, il y a à la demande d'une de nos revues, la revue française de sciences politiques dans un premier temps, et des chercheurs, un modèle pour passer à une édition anglaise. On a fait des premières expériences qui étaient un petit peu compliquées avec des traducteurs plutôt en Inde, mais du coup la qualité de traduction n'était pas du tout au rendez-vous. Donc bon, on a un petit peu tâtonné, on a réussi à former une équipe de traducteurs qui était dédiée à la RFSP. Je raccourcis parce que sinon c'est vraiment un petit peu long, donc et donc on a lancé une première année avec une traduction d'une sélection uniquement d'articles. On n'avait pas le financement propre pour traduire l'intégralité des articles. Et en 2011, le CNRS a lancé son gros projet d'aide à la traduction des revues, qui concerne 5 revues uniquement, et qui aide à traduire tous les articles publiés dans une année pour la revue. Ça ne concerne que les articles et pas tout après ce qui peut être bibliographie, compte-rendu de lecture. Ce ne sont que les articles. Donc, ce programme a été lancé en 2011. Il continue jusqu'à l'année prochaine et après, c'est un petit peu la grande inconnue. Donc on a pu bénéficier de cette aide pour la revue française de sciences politiques et pour la revue française de sociologie. Ce sont des montants très importants, parce que pour la RFSP, c'est par exemple 20 000 euros par an, sauf que ça ne couvre pas tout, évidemment, tous les frais de traduction. Et il en reste 15 000 à la charge de l'éditeur, ce qui est quand même assez important. Et voilà. Puis après, il y a les coûts de création de la revue, puisqu'on a aussi décidé que la revue serait composée, mise sur le même modèle que la version française, pour pouvoir présenter quelque chose d'assez cohérent. C'est à peu près le même ordre d'idée pour la revue française de sociologie. Donc, c'est ces éditions anglaises, un petit peu raccourcies, elles sont diffusées via Cairn et Cairn International, plus particulièrement, et sur G-Store, puisque ça a été une des obligations du CNRS l'année passée d'avoir deux plateformes de diffusion pour les revues en anglais. Avec, pour le coup, sur G-Store, aucune barrière mobile. Il a fallu mettre à disposition tout de suite. Et avec aussi l'obligation, on n'a pas fait encore, je m'excuse auprès de revue.org, de mettre aussi disponible sur revue.org les éditions en anglais qui ont été financées par le CNRS. Donc ça, c'est toute une première partie, ça concerne deux revues et on a déjà des premiers retours qui sont intéressants. De diffusion, de consultation. Alors, c'est très important au niveau de la diffusion, puisque là, du coup, c'est plus simple pour quand même de l'anglais pour pouvoir intégrer les bibliothèques à l'étranger. Ça reste sur un modèle économique absolument pas viable. Et je pense qu'il n'y a pas d'autofinancement de prévu avant. Très 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 longtemps en fait, même si on devait réduire et passer un système où on ne composait pas, puisque ça rajoute des coûts, de toute façon on ne couvre pas du tout nos frais de traduction. Et je pense que le modèle tel qu'il est aujourd'hui, que ce soit sur Cairn ou sur G-Store, ne permettra pas, même G-Store, on peut imaginer que ça a une plus grosse diffusion dans le reste du monde, monde qui n'est pas francophone, arrivera jamais à faire on n'arrivera jamais à l'autofinancement avec ça, en fait. Donc ça, c'est un premier programme. Le deuxième programme, c'est Cairn International. Et donc là, ça concerne, en fait, il y a 4 ans, 5 ans, ça concernait sur 2010, non, à partir des revues de 2010, 4-5 ans, je pense.
Oui, les traductions, ouais. Mais voilà. Sur des articles entre
2001 et 2013. Donc, du coup, Cairn, avec l'aide du Centre national du livre, a eu un financement pour lancer en fait une plateforme en langue anglaise, internationale, du coup, avec surtout toutes les présentations des métadonnées, donc ça veut dire les titres, les résumés en anglais, et avec. Du coup, un financement pour la traduction de certains articles, de sélection d'articles par année pour une trentaine de revues. Un peu. Donc nous, on a été concernés pour 5 de nos revues, 5 ou 6 de nos revues, 5, voilà. Du coup, on n'a pas voulu doubler ces effets d'aubaine et hors, bien sûr, nos deux revues qui étaient aidées par le CNRS. On a laissé le financement, donc... Là, du coup, ça a permis aussi une montée en puissance de Cairn International et une visibilité des revues en anglais, aussi bien sur les articles traduits, mais aussi pour toutes les métadonnées. Et ça a impacté les revues, ça oblige les revues à beaucoup améliorer en fait leurs métadonnées en anglais, à vraiment pas passer un résumé sur Google Trad et de le remettre juste comme ça. Parce qu'en plus, Cairn est très sévère sur l'évaluation des métadonnées, ce qui est primordial, parce que sinon ça ne passe pas. Donc, ça aussi, donc au-delà de la diffusion de la recherche française dans un bassin beaucoup plus large que le bassin francophone, cette idée d'internationalisation et de traduction en anglais, ça a impacté les revues qui, soit sur les. En tout cas pour les deux groupes revues, sur les articles qu'elles ont pu recevoir, sur les propositions en fait, d'auteurs qui du coup se disent c'est super parce qu'en plus je vais être traduit en anglais, donc qui ont proposé des dossiers, il y a eu tout ça où les chercheurs se sont proposés vers les revues, et puis d'améliorer leur processus en interne pour... pour gagner aussi en qualité. ça sera sur la diffusion et en français entre voilà la question de papier ou d'électronique. Évidemment, l'anglais ne se fait que en édition électronique, puisque après on n'a pas nous dans petite presse les moyens d'avoir une diffusion papier ou d'abonnement papier en anglais. Et là, ça serait beaucoup trop de gestion et ça alourdirait en fait le modèle économique des revues. Donc en anglais, c'est que de la diffusion numérique. Voilà.
Merci beaucoup, Sandrine. Peut-être qu'il y aura un certain nombre de questions, mais je préfère qu'on propose à Pierre Carmier d'intervenir et que ensuite on passe aux questions aux différents deux invités. Donc, Pierre, on va présenter, mais un peu en creux, vous n'étiez pas là. Donc, merci beaucoup de m'avoir accepté de venir au nom du CLEO, hein, que je pense ici tout le monde connaît, donc le Centre pour l'édition électronique ouverte, et aussi pour bien sûr aborder notre thème qui est la question de la traduction au sein de l'internationalisation des revues, mais peut-être d'un autre point de vue qui est celui d'une expérience tout à fait originale et essentielle dans le paysage francophone et international. Donc d'une plateforme qui a commencé comme une plateforme de revues, puis qui a proposé ce site hypothèse.org, qui est peut-être un des principales créateurs, donc ça pourrait être intéressant aussi pour nous, et maintenant qui s'est lancé dans le livre et le e-book. Donc, par rapport à notre thème d'aujourd'hui, oui, je voulais juste ajouter que Pierre est aussi, aussi un séminaire sur les humanités numériques et qu'il a écrit de nombreux articles. Et également, il y a peut-être pour les gens qui veulent se documenter de façon un peu synthétique sur l'édition électronique, ce petit ouvrage que tu as co-dirigé avec Marvin Dacôte, donc sur l'édition électronique aux éditions de la Découverte, qui peut être une bonne introduction, je pense.
Un peu daté maintenant, parce que ça a été publié en 2011, si je me souviens bien, donc le secteur est évoluant.
Je pense que, notamment pour les praticiens de l'édition électronique, souvent on n'a pas le recul sur les débuts. Et donc, ça donne un peu des repères. Voilà. Je ne sais pas si tu veux utiliser l'ordinateur.
Non, ça va aller. D'accord. Par contre, on peut peut-être mettre plutôt revue.org que le CLEO. Parce que c'est ce dont je vais parler, du coup, comme la séance est consacrée aux revues. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre invitation et je vous présente. Voilà. Et je voudrais vous présenter toutes mes excuses pour mon retard qui est dû à une erreur de localisation. Voilà, quand on travaille dans le numérique, après on a du mal à se repérer dans l'espace physique. Lost in the cyberspace, on va dire. Alors je voudrais commencer en fait mon intervention, où je vais essayer de répondre à la question qui est posée, en particulier dans l'introduction de la séance, en rebondissant sur cette expression qui est utilisée dans l'introduction de l'utopie de l'accès libre généralisé. Donc à ma connaissance, une utopie, c'est un modèle qui n'a pas de lieu, qui n'existe nulle part et que l'on ne peut pas trouver. Alors peut-être qu'en guise d'introduction, je vais essayer de dresser un paysage de cette utopie qui n'a pas de lieu. Au Brésil et en Amérique latine, la plateforme Cielo, S-C-I-E-L-O, diffuse aujourd'hui près de 1200 revues de toutes les disciplines scientifiques, sciences humaines et sociales comprises, en libre accès. Au Royaume-Uni, la plateforme Open Library of Humanities diffuse, qui s'est créée en fait l'année dernière, diffuse aujourd'hui 11 revues en open access. En Croatie, la plateforme ERCAC. Alors Anne, tu as vu que j'ai amélioré ma prononciation suite à un séjour à Zadar où j'ai entendu beaucoup parler de cette plateforme. Voilà. Donc là, cette plateforme propose 429 revues en accès ouvert, dont un bon nombre de sciences humaines et sociales, environ 80%. En Espagne, le CSIC, qui est une sorte d'équivalent espagnol du CNRS, diffuse environ 37 revues en libre accès. en Grèce, la plateforme de l'EKT, qui est une sorte d'équivalent de l'INIST, mais en Grèce, propose 25 revues en open access. Au Québec, la plateforme Érudit, que vous connaissez sans doute, diffuse aujourd'hui 150 revues qui ne sont pas en accès ouvert, mais l'annonce a été faite récemment que la plateforme Érudit se dirigeait vers l'open access pour les années à venir, en particulier de la part de son nouveau directeur scientifique, Vincent Larivière. Au Canada encore, le consortium Public Knowledge Project, PKP, développe un logiciel de publication de revues en accès ouvert qui s'appelle Open Journal System. Or, Open Journal System diffuse aujourd'hui, donc qui permet, alors c'est pas une plateforme, mais c'est un outil de publication qui est installé, qui peut être installé localement sur des serveurs d'universités, de revues, de sociétés savantes et ainsi de suite, diffuse aujourd'hui environ 10 000 revues en open access à partir de 4 000 installations de ce logiciel. Et puis je terminerai, alors c'est pas un paysage exhaustif, mais c'est quelques points. Je terminerai avec quelque chose, une initiative que j'ai particulièrement à cœur, qui s'appelle AJOL, A-J-O-L. C'est l'acronyme de African Journal Online. Et cette plateforme qui est basée en Afrique du Sud travaille pour tout le continent africain et diffuse aujourd'hui 213 revues africaines en open access. De manière plus globale, si vous voulez avoir un paysage un peu plus global de la réalité de la diffusion en accès ouvert des revues scientifiques, toutes disciplines confondues, vous pouvez vous référer au DOAJ, Directory of Open Access Journal, qui est donc un répertoire listant non pas toutes les revues en open access, mais celles qui répondent à un certain nombre de critères de qualité, en particulier en termes de périodicité de publication, en termes de qualité minimale, on va dire, de l'évaluation des articles avant publication, ou de qualité technique. Et le DOAJ recense aujourd'hui près de 10 000 revues en open access de par le monde dans toutes les disciplines. Alors plutôt que d'utopie, j'ai une proposition à faire qui serait de requalifier ce terme d'utopie en polytopie, puisqu'il me semble que justement quand on regarde ce paysage de la diffusion des revues scientifiques en accès ouvert, on voit d'abord qu'il est très répandu. Alors il est généralisé au sens où quasiment dans toutes les régions du monde vous avez des initiatives, vous avez des plateformes, vous avez de nombreuses revues qui sont diffusées. Et la chose qui m'intéresse pour aller un peu plus dans le détail de ce paysage, c'est de voir qu'il repose sur des plateformes qui sont localisées, justement. Alors localisées à l'échelle d'un sous-continent, localisées à l'échelle d'un pays ou localisées à l'échelle d'une institution universitaire. Si vous regardez par exemple en Italie, vous voyez que la quasi-totalité des bibliothèques universitaires des différentes universités italiennes ont leur plateforme fonctionnant sous Open Journal System, sur lequel elles diffusent 5, 6, parfois 10 revues, qui sont des revues locales. Donc il y a une localisation qui est assez importante. Et à mon avis, c'est intéressant de voir la relation de cette localisation de ces revues en accès ouvert par rapport à un paysage globalisé de l'édition scientifique tel qu'on peut le connaître en particulier dans les disciplines sciences techniques, médecine, où vous avez des acteurs globaux du type Elsevier, du type Walter Kluwer, du type Taylor & Francis, qui dominent un marché global. Alors, je voudrais avancer un peu sur cette question de la localisation. Et lorsqu'on regarde effectivement ces différentes plateformes, on voit qu'elles sont majoritairement inscrites dans ce qu'on peut dire un peu négativement, mais en fait, est-ce que c'est si négatif que ça, des silos linguistiques. C'est-à-dire que les langues, la diversité des langues, correspond aussi à une diversité des localisations. Cielo diffuse la plupart de ses revues en portugais et en espagnol. Il y en a quelques-unes qui sont en anglais, mais c'est vraiment une infime minorité. Les revues italiennes qui sont diffusées dans les universités sont des revues en langue italienne, et ainsi de suite. Si vous allez sur le portail du CSIC, vous voyez qu'il y a 2-3 revues en anglais, mais la plupart sont en espagnol. Alors, ça me fait penser à cette note de recherche que j'imagine, je ne sais pas si vous en avez déjà discuté dans le séminaire, qui est la question de la traduction en sciences sociales, la note de Gingras, qui a été publiée en 2010, où Gingras fait une étude bibliométrique sur l'effet de la traduction en anglais de deux revues phares de sociologie et de démographie française. J'imagine que vous connaissez aussi cette étude. Les deux revues sont la revue Population et la revue française de sociologie. Et alors, j'imagine qu'au cours des questions, on aura l'occasion de revenir sur cette note et les conclusions qu'elle propose. Mais les conclusions sont que pour une part, c'est-à-dire pour la revue Population. Donc ces deux revues se sont engagées dans une politique de traduction systématique ou quasi systématique, ou très majoritaire, on va dire, de leurs articles français en anglais. Donc pour la revue Population, la note de Gingras conclut, enfin la recherche conclut à un effet de substitution. C'est-à-dire sur le fait que les citations, les publications, la visibilité en fait va s'est déportée de la version française vers la francophone vers la version anglophone et a en quelque sorte aspiré l'énergie de la version francophone vers la version anglophone. Et pour la revue française de sociologie, les changements qu'on a vus, qu'on peut voir sur les indices de citation en particulier, de visibilité des articles publiés par cette revue, sont antérieurs à la politique de traduction. Et en fait, repose, quand il fait une analyse un peu plus fine, sur la publication par la revue de dossiers spécifiques de mise au point, on va dire, d'état de l'art sur l'état de la sociologie française ou sur l'histoire de la sociologie française. Ce qui est susceptible d'intéresser des chercheurs en particulier américains ou anglophones de manière plus générale qui s'intéressent à cette question. Et donc en fait, la conclusion sur la revue française de sociologie, c'est que c'est pas vraiment la politique de traduction qui a accru le rayonnement de la revue en particulier en direction des pays anglophones, c'est le fait de choisir des sujets d'études susceptibles d'intéresser les chercheurs anglophones. Donc là, il y a quelques mois, cette note, elle m'a tout de suite beaucoup intéressé parce qu'elle montre que la question de l'impact des langues sur le rayonnement, sur les usages, ne dépendent pas donc seulement de politiques de traduction, mais dépendent de beaucoup d'autres paramètres, comme des paramètres de localisation, des paramètres de construction des réseaux scientifiques ou des paramètres liés aux thématiques étudiées, aux types d'objets étudiés par les revues. Alors avec tout ça, j'ai pas parlé de revue.org, donc je vais commencer à en parler maintenant, si vous voulez. Donc pour la France, si je continuais ma liste du début, je dirais que pour la France, l'initiative, une initiative, on va dire, pour la diffusion des revues en accès ouvert, c'est revue.org, qui est inscrit majoritairement, on va dire, dans le silo francophone, puisque j'ai parlé de silo linguistique. Pourquoi ? Parce que sur les 400, je ne sais plus combien, 30, c'est marqué, oui, 41, 441 revues qui sont diffusées par revue.org, une immense majorité d'entre elles sont ou bien françaises ou bien francophones, de manière plus large. Et évidemment, le seul chiffre que je n'ai pas, c'est le nombre de revues francophones, mais si on va dans le catalogue, on le retrouve, j'ai complètement oublié de le vérifier. Bon, bref, c'est 300, je ne sais plus combien, mais c'est vraiment beaucoup. En revanche, lorsque vous regardez ce catalogue, vous pouvez le faire par vous-même en regardant le catalogue des revues en ligne. Vous avez des critères de tri. Vous voyez que vous avez une liste. Ah ben, on peut le faire. Vous pouvez cliquer sur 441 revues. Voilà. Ok. Et là, vous avez des critères de tri. Alors, on va commencer par les langues. Et là, vous voyez que dans les 441 revues, vous avez 14 langues qui sont représentées. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on a des revues dans les 14 langues ? Non, pas forcément. Mais ça veut dire qu'on a des revues, il y a un nombre important de revues. Alors, j'ai pas les critères, j'ai pas les bonnes clés de tri qui permettent de le montrer, mais croyez-moi, un bon nombre de ces 441 revues sont des revues plus ou moins multilingues. C'est-à-dire des revues qui publient éventuellement une majorité d'articles en français, mais quelques articles dans d'autres langues, et parfois dans plusieurs langues. Alors je ne vais pas trop entrer dans le détail parce que je vais vous donner 5 cas de 5 revues qui correspondent à 5 situations différentes. Maintenant quand on regarde, alors il faut fermer l'onglet pour aller voir les pays de production. Merci beaucoup. vous voyez qu'il y a un nombre encore plus important de pays de production. Ce sont des pays où les éditeurs de ces revues sont situés. Donc j'en ai compté 27. Alors le nombre est là est assez surreprésenté par le fait que bon nombre de ces revues sont en fait éditées par des instituts français de recherche à l'étranger qui sont positionnés dans un certain nombre de pays. Mais ça ne fait pas tout, hein, on est d'accord. Alors, c'est d'autant plus intéressant que, et là je vais peut-être vous surprendre, en réalité, nous n'avons jamais eu de véritable politique d'internationalisation sur la plateforme revue.org. Nous avons une politique d'internationalisation et de développement du multilinguisme qui est financée par un équipement d'excellence, mais cette politique est financée pour le développement de la plateforme de livres et de l'internationalisation de la plateforme de livres et de la plateforme hypothèse, qui est la plateforme de carnet de recherche. Alors, de fait, il y a des effets collatéraux qui font que ces initiatives sur d'autres plateformes, du coup, bénéficient par effet collatéral aussi à l'internationalisation de la plateforme revue.org. Et puis, il y a d'autres critères. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que il y a une sorte de pression qui fait que cette plateforme, qui au départ a été conçue pour des revues françaises, puis pour des revues francophones, mais n'a jamais été véritablement conçue en tant que telle, il n'y a jamais eu de dessin particulier pour en faire la plateforme internationale ou une plateforme internationale, de fait, a attiré l'attention d'un certain nombre de revues en dehors de la France ou d'un certain nombre de revues qui publient dans d'autres langues que le français. Et si on entrait dans le détail, on pourrait se dire que, par exemple, au Portugal, nous avons développé un programme de développement au Portugal et dans la zone lusophone qui s'appelle Lusopen Edition, qui a largement bénéficié au fait, enfin, qui a eu pour effet que, par exemple, aujourd'hui, 14 de nos revues sont éditées au Portugal, sont des revues portugaises. Nous avons un programme de développement aussi en Italie, qui s'appelle Open Edition Italia. Si vous voulez avoir plus de détails sur ce programme, vous pouvez demander à Alessia, qui est ici et qui est responsable du développement de ce programme, mais qui est majoritairement orienté vers les livres, vers les carnets de recherche. Mais Alessia peut en témoigner. Du coup, il y a pas mal de revues qui viennent nous voir en disant « Ah oui, mais les revues, ça nous intéresse aussi, on voudrait être diffusé, des revues italiennes. » Nous avons une revue slovène, théorie de philosophie du droit qui nous a rejoint, sur laquelle je vais revenir parce qu'elle est assez intéressante, et puis des revues qui viennent de pays plus lointains comme le Chili ou l'Argentine. Alors on se dit, mais que vient faire une revue chilienne comme Polis par exemple, qui est une revue de sciences politiques, sur une plateforme comme revue.org, qui est une revue française une plateforme française et très francophone? Alors, quand on discute avec ces revues, des pays assez lointains d'Amérique du Sud, ils nous disent, et en fait, on se rend compte qu'ils ont des stratégies, et c'est là que je commence à répondre aussi un peu à la question, des stratégies de multi-référencement et de mise en visibilité de leur contenu en direction de différents publics. Le point intéressant dans ça, c'est que aujourd'hui, un nombre croissant d'acteurs ont dépassé l'étape de réflexion qui consistait à se dire, puisque c'est en open access sur une plateforme sur le web mondial, ça suffit et on va toucher toute l'audience mondiale. C'est faux. C'est complètement faux. Et en fait, ces revues ont bien compris que si elles voulaient toucher un public français ou plus largement européen, il fallait qu'elles soient aussi sur une plateforme européenne. Et ne vous inquiétez pas, elles cherchent aussi à être sur des plateformes nord-américaines. Donc elles ont des stratégies qui consistent à être présentes partout, en fait, ou sur différentes zones stratégiques, quelle que soit leur langue. Police est une revue qui publie uniquement en espagnol. Mais c'est intéressant qu'elles soient venues nous voir, nous, et pas le CSIC, par exemple, en Espagne, pour gagner de la visibilité et toucher une audience réellement internationale qui n'est pas une audience globale, parce que l'audience globale n'existe pas. Ce qu'on peut essayer de toucher, c'est une audience internationale qui est l'ajout de différentes communautés qui se trouvent sur différents continents ou dans différents pays ou dans différentes zones linguistiques. Donc ça, c'est un point qui est assez important à mon avis. Alors, comme je vous l'ai dit, et j'aborde une autre question à partir de mon point d'observation, on peut essayer de s'intéresser maintenant un peu plus aux usages. Alors, je vais d'abord m'intéresser aux usages éditoriaux avant de m'intéresser aux usages de lecture. Comme je vous l'ai dit, un certain nombre de nos revues, qu'elles soient françaises ou pas, pratiquent le multilinguisme de manière plus ou moins intensive ou pas. Et quelquefois, elles pratiquent de la traduction. Alors, je vais vous donner 5 exemples qui vous donnent 5 cas particuliers. Premier exemple, la revue assez connue à l'école, puisque c'est une revue de l'école, la revue Nuevo Mundo, Mundos Nuevos, qui est une revue multidisciplinaire portant sur l'Amérique latine, comme son nom l'indique, et qui est une revue en accès ouvert, purement électronique, elle n'a jamais eu de version papier, qui a innové pas mal aussi en termes de modalités de publication, type de documents publiés ou type d'articles publiés, organisation éditoriale des dossiers et ainsi de suite, et qui publie des articles majoritairement en espagnol, mais aussi en français, mais aussi en portugais, et quelquefois en anglais. Ça, c'est un premier exemple d'une revue qui pratique, je vais dire, le multilinguisme massif, avec quand même une zone de gravité sur l'espagnol, bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une revue qui est, bien sûr, positionnée en France, mais qui s'appuie sur un réseau scientifique qui, lui, est, on va dire, transcontinental. Deuxième exemple, la revue Volume. La revue Volume est une revue, c'est la revue des musiques populaires, qui n'est pas une revue à proprement parler en accès ouvert, puisque elle a une barrière mobile et elle fait partie de notre accord avec Cairn. Mais ce qui m'intéresse dans cette revue, c'est qu'elle a une politique de publication, de traduction de certains dossiers en anglais. Donc c'est une revue française, francophone, mais qui construit des dossiers à partir de traductions d'articles en anglais, qu'elle a choisi de diffuser d'abord auprès d'un éditeur anglais qui est Ashgate, sous format papier. Parce qu'ils ont compris une chose, c'est qu'il ne suffit pas de traduire en anglais, il faut aussi entrer dans les circuits de diffusion, en fait, locaux, si je peux me permettre. Par contre, le truc intéressant, c'est que ces mêmes dossiers, ces mêmes... Alors, le truc encore plus intéressant, c'est qu'ils se publient avec Ashgate, non pas sous forme d'une revue, mais sous forme d'une collection de livres, en fait. Une collection de livres édités. Et puis, dernier point, évidemment, ces articles traduits sont aussi publiés à côté des articles français sur le site de la revue Volume, en accès ouvert. Troisième exemple, qui est un exemple connu ici aussi, c'est la revue Trivium, qui est carrément une revue de traduction, qui a pour objectif de traduire des articles importants de sciences sociales germanophones en français et inversement. C'est une revue qui est soutenue par la FMSH et donc qui se positionne de manière très particulière, on va dire, sur cette question, mais je détaille pas puisque vous la connaissez très bien, évidemment. Quatrième exemple, la revue Rebus, qui est la fameuse revue slovène de droit constitutionnel et de théorie du droit, qui est une revue qui publie des articles en les traduisant quasiment systématiquement, donc en serbo-croate, en slovène et en anglais. Alors on a toujours, plus ou moins toujours, anglais ou serbo-croate, anglais ou slovène, et parfois on a les trois, et qui a fait le choix d'être diffusé sur la plateforme revue.org, sans doute pour toucher une audience différente de celle qu'ils pourraient toucher à partir de leur lieu de diffusion naturel. Et puis le dernier exemple, c'est une revue aussi qui m'est chère, c'est la revue EJTS, European Journal of Turkish Studies, qui est une revue basée en France, animée par des chercheurs français, mais qui ont évidemment construit un comité éditorial, un comité scientifique international. C'est une revue complètement open access, purement numérique, pas de papier, appuyée sur un laboratoire ou plusieurs laboratoires, et qui publie des articles en français, en anglais, en allemand et en turc. Pas systématiquement, mais avec ce multilinguisme-là. Avec la volonté plus ou moins explicite, en tout cas pour les articles écrits en turc, évidemment, de toucher un public local qu'elle ne toucherait pas forcément en publiant uniquement en français ou en anglais. Alors, dernier point, j'espère que je ne suis pas trop en retard, ça va ? Ouais. Dernier point, les usages de lectorat. Alors, je vais essayer d'éviter de vous assommer avec des chiffres, mais j'ai quand même regardé un peu la situation des statistiques de fréquentation sur un certain nombre de revues types, donc celles dont j'ai parlé, en termes de proportion du lectorat qui vient de tel ou tel pays, et en fonction de ces politiques de traduction ou de multilinguisme plus ou moins affirmées propres à chacune de ces revues. Vous pouvez faire l'exercice vous-même, si ça vous intéresse, puisque vous avez accès, s'il y a un accès public aux statistiques de fréquentation de toutes les revues, de revues.org et en fait de tous les sites d'Open Edition, auxquels vous pouvez accéder en tapant l'adresse logs.openedition.org. Alors, premièrement, statistiques. Alors, tout ce que je vais dire à partir de maintenant, tous les chiffres que je vais donner concernent le nombre de pages vues. Pas le nombre de visiteurs, pas le nombre de visites, mais le nombre de pages vues, puisqu'en fait, l'indicateur auquel on a véritablement accès. En ce qui concerne la plateforme globale revue.org, on a environ 50% de la fréquentation de Revue.org en termes de nombre de pages vues, je ne le redirai pas, c'est la dernière fois que je le dis, qui vient de France. D'accord ? Donc c'est une proportion moindre que la proportion du nombre de documents en français ou du nombre de revues françaises, hein, en termes de proportion. Les autres 50% se divisent. Alors ça fait 5,8 millions de pages vues mensuelles, excusez-moi. Les autres pays sont les États-Unis en deuxième position avec 2 millions de pages vues, puis l'Allemagne. Alors ça c'est assez intéressant parce qu'on a très peu de contenu en allemand, en fait très peu d'articles en allemand, 1,1 million, puis le Canada, 650 000 pages vues, et quand je dis le Canada, en fait on subodore que c'est le Québec, là pour le coup. Qui est du coup un tout petit pays, hein. Le Québec c'est vraiment un petit pays, donc c'est normal qu'ils arrivent assez loin. Alors, ça c'est la situation globale. Reprenons le cas de Nuevo Mundo, vous vous souvenez cette revue? Premier pays, l'Argentine, 19 000 pages vues mensuelles. Deuxième pays, l'Allemagne, ça c'est très étonnant, 16 000 pages vues mensuelles. Troisième pays, les États-Unis, 14 000. Ensuite, le Mexique, 13 000. Puis la France. Vous voyez que la France, malgré le fait que c'est une revue française, si vous voulez, basée en France, arrive avec 10 000 pages vues en cinquième position. Puis la Colombie, puis le Brésil, puis le Chili, puis l'Espagne, 4300 pages vues. Ça, c'est assez intéressant parce que par rapport à une vision un peu englobante de la zone hispanophone, on voit qu'en fait, l'Espagne et les pays d'Amérique latine, c'est vraiment pas la même chose. Alors, c'est juste un indice, je m'y connais pas plus que ça, mais ce serait intéressant de creuser sur quelle est la réalité, véritablement, des réseaux de coopération scientifique entre espagnols et pays d'Amérique latine. Est-ce que la langue suffit ou est-ce qu'il y a une telle différence qu'en fait, ces coopérations ne sont pas si serrées que ça? La revue Volume maintenant. Revue des musiques populaires dont je vous ai parlé. Premier pays, la France, c'est logique, 16 000 pages vues. Puis les États-Unis, c'est logique, 13 000 pages vues. Puis l'Allemagne, avec un gros décrochage, 2 300 pages vues. La revue Trivium maintenant. Premier pays, l'Allemagne, avec 12 800 pages vues. Deuxième pays, la France, avec 8 500 pages vues. Puis gros décrochage, les États-Unis, avec 3 600 pages vues. La revue Revus. Cette fameuse revue slovène. Premier pays, les États-Unis, 5 300 pages vues. Deuxième pays, l'Allemagne, 2 900. Troisième pays, l'Espagne, ça c'est étonnant, 2 300. Alors, vous voyez, on a des espèces de je dirais, pas d'irrégularité, mais de positionnement surprenant. Pourquoi est-ce que l'Espagne arrive si haut pour cette revue, avant même, évidemment, les pays de l'ex-Yougoslavie, etc. Et une hypothèse qu'on peut faire, c'est que c'est pas seulement une question de langue, mais c'est aussi peut-être des questions d'objet d'étude, encore une fois. Puis la Slovénie quand même qui arrive, 2000, puis la France, 2000. EJTS, European Journal of Turkish Studies, 3700 pages vues pour les États-Unis, premier, ensuite 3100 pour la France, puis l'Allemagne, 2800, puis les Pays-Bas, 2100. Puis la Turquie, 1900. Ça, c'est assez logique. Alors, je vais finir en vous donnant... en parlant d'une autre revue, qui est la fameuse revue Polis, la revue chilienne de sciences politiques, qui est venue chez nous, on n'a pas très bien compris pourquoi. Mais dont on se réjouit, puisque c'est une de nos revues les plus fréquentées. Je l'ai en deuxième position, si je me souviens bien. C'est vraiment une revue très fréquentée, avec 200 000 pages vues par mois. Et quand on regarde les pays qui sont représentés en termes de fréquentation, c'est toute l'Amérique latine et quasiment pas la France. La France arrive en 20e position, je ne sais pas, mais c'est vraiment très très bas. Donc là, vous voyez, on a des effets un peu paradoxaux de cette revue chilienne qui écrit en espagnol, qui publie en espagnol, qui vient se mettre sur une plateforme française pour toucher un public d'Amérique latine. D'accord ? Donc on a une espèce d'aller-retour transatlantique qui est assez intéressant. Alors, pour pouvoir mettre un peu en perspective ces structurations, je voudrais faire la comparaison avec deux revues qui sont franco-françaises, si je peux me permettre. Une revue qui publie qu'en français, mais qui est une revue très fréquentée, et une revue très française, qui est la revue Communication et Organisation, qui est publiée par le MICA à Bordeaux et les presses de Bordeaux. Donc cette revue, 59 000 pages vues depuis la France, puis gros décrochage, 8 000 depuis le Canada, puis 6500 depuis le Maroc, puis 4000 depuis les États-Unis, puis 3900 depuis la Belgique. Donc là, on voit qu'on a une revue qui est publiée en français exclusivement, mais surtout qui est française et très franco-française. Et du coup, en termes de lectorat, on le voit très bien, le lectorat est franco-français, majoritairement. Et puis, autre exemple, une revue française, mais multilingue cette fois-ci, c'est la revue Cybergéo, que vous connaissez sans doute, qui est une revue aussi en accès ouvert. Elle fait le pari de publier des articles à la fois en français et en anglais. Il y a bon nombre d'articles en anglais. Donc on pourrait se dire, ils vont être élus aux États-Unis. 96 000 pages vues venant de France. Et ensuite on décroche immédiatement à 20 000 pages vues venant des États-Unis. Puis 7 000 venant d'Allemagne. Donc là on voit que la question de la langue joue pas forcément. Donc ça c'est un point qui est assez important. Donc voilà, c'est ma conclusion en fait. La langue ne fait pas tout. C'est en tout cas ce que j'ai pu essayer de voir à partir de mes quelques observations. Je pense que lorsqu'on parle de multilinguisme, de rayonnement international ou de diffusion internationale des revues scientifiques, il y a tout un tas de paramètres qui doivent être pris en compte, qui sont certes la langue de diffusion, mais aussi l'implantation de la revue, les sujets étudiés, et surtout, à mon avis, la structuration des réseaux scientifiques que viennent appuyer ces revues. C'est vraiment très très efficace de traduire dans une autre langue que le français une revue qui est appuyée sur un réseau scientifique franco-français seulement.
Merci beaucoup Pierre pour l'intervention très riche. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de questions. D'abord, je suis sur la... Enfin, je vais juste rebondir sur ta dernière phrase et après on va ouvrir. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des revues qui sont appuyées sur des réseaux de recherche nationaux? Je pense qu'il n'y en a plus beaucoup. C'est ça, l'internationalisation de la recherche aussi est arrivée peut-être en amont de l'internationalisation des revues. Donc ça, c'est peut-être une question à ouvrir. Et puis, la question quand même des équilibres économiques. Tu nous dresses un portrait, je veux dire des exemples très précis de revues, mais peut-être qu'il faudrait détailler chaque situation peut être très différente dans l'économie de la revue. Sandrine a peut-être plus centré son intervention sur cette économie interne. Voilà, et une chose dont vous n'avez pas parlé tous les deux, qui est l'impact de la nouvelle loi française pour une république numérique qui va changer un certain nombre de dispositions dans les barrières mobiles dans un avenir assez proche, même si l'application n'a pas été encore signée, donc une loi qui a été votée en juin et qui notamment recommande pour les sciences humaines une barrière mobile à un an. Ça c'est aussi peut-être...
Je peux juste préciser là-dessus, en fait, la loi ne recommande pas ou n'oblige pas une barrière mobile à un an. La loi autorise l'auteur à déposer dans une archive ouverte, après un embargo d'un an au maximum, la version acceptée pour publication de son article. Donc ça n'a, en fait, la loi ne dit rien aux revues. La loi ne dit pas aux revues, vous devez mettre une barrière mobile à un an, pas du tout. La loi parle aux chercheurs, ce qui est autre chose.
Très bien, merci beaucoup. Bon, alors, c'est vrai qu'il y a eu tellement de débats autour de cette loi, finalement, souvent, que le message n'est pas encore totalement passé. Peut-être qu'il y a aussi voilà, il y a des discussions sur des changements à préconiser pour les barrières mobiles. C'est bien de rappeler quel est le texte de la loi. Voilà.
Mais ça a quand même un impact sur les revues, non ?
Bah, je pense que ça en aura un. Aujourd'hui, c'est compliqué de mesurer ce qu'est l'impact économique ça aura, parce que du coup, l'impact qui va y avoir, ça va être sur l'économie. Une fois que les articles seront dans les archives ouvertes, est-ce que les revues qui ont mis ces articles seront intéressants ? Alors, peut-être que ça sera moins vrai sur les revues à dossier. Ça obligera peut-être les revues à penser justement sur ces idées de dossier qui sont plus... qui intéresse aussi et qui aide à une diffusion, parce que du coup on est sur même si un chercheur va déposer son article sur ses propres archives, du coup il l'enlève de ce dossier qui a été pensé avec 5 ou 6 articles. Donc là je sais pas trop
Il l'enlève, il le retire,
oui,
pas,
oui.
Hein.
Non, mais,
il donne un accès indépendant, en fait.
Oui, c'est voilà, ça. C'est ouais. Ça, mais du coup qui est pas dans ce dossier. Donc je ne sais pas, là ça peut je ne sais pas quel impact sera sur les revues du coup qui ont plus que ça. Après, sur des revues qui publient des variables, principalement des variables, donc avec un seul numéro qui va être plus par dossier. Après, aujourd'hui, on ne sait pas mesurer en fait quel sera l'impact économique sur les revues. Après, ça les fragilisera sans doute. Mais je ne sais pas à quel niveau. C'est difficile de mesurer. Alors je sais qu'il y a le groupe de l'édition universitaire du syndicat national de l'édition qui essaye de quantifier en fait les pertes que éventuellement pourraient avoir les éditeurs scientifiques. Mais pour l'instant, il n'y a aucun chiffre. Je sais qu'ils sont en discussion avec le ministère pour faire justement une espèce de comité d'évaluation de l'impact de cette loi numérique sur les éditeurs. Mais pour l'instant, il n'y a aucun chiffre en tout cas qui sont donnés, ni de pertes, ni d'éventuelles compensations que pourrait donner quand même le ministère. Parce que les pouvoirs publics ont à un moment évoqué l'idée de compenser ça. Bon, pour l'instant, en tout cas, il n'y a aucune donnée chiffrée. Donc c'est un petit peu l'inconnu, quoi. Ça les fragilisera peut-être, mais dans quelle mesure, je ne sais pas, en fait.
Peut-être sur la revue Tribune, tu pourrais ajouter quelque chose?
Non, particulièrement, mais ce qui était intéressant dans ce que tu as dit sur J-Store, c'est-à-dire pour rester sur le sujet, c'est que, donc, apparemment, cette publication-là, donc, qui reprend des articles qui sont déjà en accès libre, n'empêche pas la vente quand même de ces revues. C'est pas non plus si on peut généraliser quelque chose à partir de
ça. Ce qui est pour moi était une vraie surprise quand j'ai repris les revues, c'est que c'était déjà en place avant, en fait, pour 3 de nos revues, c'est qu'en fait on a des barrières mobiles à 3 ans pour toutes nos revues. Et une fois qu'elle passe en fait en accès libre sur Cairn, G-Store les récupère et les vend.
Mais je crois que vous avez raison. En fait,
moi ça m'a complètement surpris. Je trouve ça un peu dingue. Mais du coup, ce qui serait mon analyse, c'est que du coup les plateformes offrent un service.
Ouais.
Et du coup, G-Store offre un service à la bibliothèque. Qui va au-delà en fait de juste l'accès à un texte. Donc ça va être du référencement, ça va être la possibilité de créer une propre bibliothèque pour le chercheur sur G-Store, de créer ses propres bibliothèques de recherche. Donc en fait on est Je pense que quand une bibliothèque anglo-saxonne principalement, ou même s'abonne au Sciences Po, parce que Sciences Po est abonné à Gistor aussi, c'est ce service qu'elle veut offrir en fait à ses usagers, au-delà d'un accès à un texte, en fait. Et je pense que c'est pour ça que les bibliothèques continuent de payer, parce que c'est quand même pas... C'est quand même hallucinant que Sciences Po paye Gistor pour des revues qu'elle a payées pendant 3 ans et qu'elle continue à payer après sur Gistor.
Et... francophones.
Oui, mais nos revues sont quand même incluses dans les bouquets. Donc il y a un moment où ça peut quand même faire doublon, même si elle ne s'abonne pas à nos 12 revues. Il y a quand même un moment où je pense que la revue française de sciences politiques est partout. Enfin, pour les grosses revues. Et du coup, c'est surprenant. Intéressant quand il y aura les bibliothécaires qui viendront, qui participeront aussi à ce séminaire, parce que c'est un vrai sujet, je pense, pour eux aussi de ressources numériques, que du coup, Gistor arrive à vendre, et avec des revenus qui sont quand même assez conséquents pour nos revues, des articles qui sont gratuits.
Si je peux me permettre, je fais exactement la même analyse. Et ce qui est vendu, c'est effectivement de moins en moins le contenu et de plus en plus le service, en particulier auprès des bibliothèques qui externalisent de plus en plus, en fait, qui ont des ressources humaines en baisse et donc qui externalisent en fait les services en achetant des services clés en main pour leurs utilisateurs. Et donc, ce qui est intéressant pour la bibliothèque sur Gistor, c'est pas seulement l'accès au contenu, mais c'est l'accès à un ensemble de contenus, en fait. C'est ça. C'est-à-dire, c'est pas l'article qui est intéressant, c'est le fait que ce soit un ensemble complet d'articles, plus tous les services d'information, de découverte, etc., qui vont avec. Et c'est le même raisonnement que l'on a eu lorsqu'on a mis en place le modèle freemium, du coup. Puisque le modèle freemium repose sur l'idée selon laquelle ce n'est pas le texte. Le texte doit être en libre accès, mais sur la base de ce texte en libre accès, on va pouvoir commercialiser des services à valeur ajoutée auprès des bibliothèques qui vont générer des revenus pour les éditeurs qui se proposent ou acceptent de diffuser en accès ouvert leur contenu.
Peut-être le programme premium concerne uniquement les livres, non ?
Non, les deux.
Les deux.
On a un bouquet de 155 revues participant au programme freemium, dont le texte est en libre accès en HTML, sur la base desquelles on propose aux bibliothèques d'acheter un ensemble de services. Bon, le service phare étant la possibilité pour les utilisateurs de télécharger les versions PDF et EPUB des articles de ces revues. Mais c'est un service. C'est pas le texte, en fait. Le texte, il est en libre accès.
Je pense que c'est ce qui se vend, en fait. Du coup, c'est le service.
Oui, c'est peut-être un aspect qui est totalement évident pour la plupart des participants. Pour moi, ou peut-être pour certains qui viennent plutôt de la recherche, peut-être un peu moins, parce que c'est quand même là un véritable changement de perspective par rapport au travail éditorial traditionnel.
Après, pour le chercheur, qui finalement est dans une institution, la question de si c'est en accès libre ou pas ne se pose pas, puisqu'il a un accès de toute façon libre via sa bibliothèque ou via l'abonnement de la bibliothèque. Non, sauf que la bibliothèque
pas,
a payé...
Ce n'est pas forcément vrai pour tous les étages de la recherche, parce que les différents chercheurs ont un accès, selon leur statut, à différents genres de contenu. Donc le fait d'être dans une institution... En tant qu'étudiant, en tant que chercheur associé, ou en tant que doctorant invité, ou en tant que chercheur confirmé, ne veut pas dire qu'on a accès à tous les contenus fournis par la bibliothèque. Ce n'est pas automatique.
Ça dépend des universités.
Ça dépend, parce que par exemple, pour les chercheurs Sciences Po, associés, étudiants qui arrivent, ils ont accès à tous les services, parce que je suis d'accord que ça relève plus du service. À tous les services de Cairn, Gistor et toutes les plateformes auxquelles la bibliothèque est abonnée, en fait. Et donc, eux, ils ont accès à tout ça. Donc, du coup, pour un chercheur, c'est de l'accès libre, en fait.
Oui,
il n'a pas, lui, à repayer pour ce qui est le propre de la bibliothèque. Hein,
non, je voulais dire, pour quelqu'un qui s'initiait seulement à ce débat et à cette question, ça subtilise, ça les rend un peu plus subtils quand même, la discussion qui, pour moi en tout cas, était pour l'instant quand même une grande opposition qui s'est focalisée sur le contenu. C'est-à-dire, si le contenu est déjà libre, il n'est plus commerciable, ce qui est évident et apparemment paradoxe, c'est-à-dire c'est clair, alors comment faire?
Et donc là, je découvre qu'il y a au moins déjà une première, un premier aspect qui met en question le métier éditorial, parce qu'on peut dire que de toute manière, un éditeur comme Sciences Po ou autre avait déjà toujours cette fonction qui est classifiée, sélectionnée et tout. Mais là, c'est une autre échelle. Ce qui est... Mais revue.org se finance par comment ? La plateforme elle-même ?
Alors, c'est une revue.org est une plateforme du Cléo. Alors, c'est là qu'on revient au Cléo, le Centre pour l'édition électronique ouverte, qui est une unité mixte de services, soutenue par 4 institutions financièrement, en termes de salaire, donc des personnels, et en termes de budget de fonctionnement, par donc le CNRS, l'École des études en sciences sociales, Aix-Marseille Université et l'Université d'Avignon.
Ouais.
Donc, c'est un service public.
Oui, c'est peut-être important de le dire. Je ne sais pas, je n'ai pas des comparaisons avec d'autres pays, mais c'est l'idée du service public, du numérique, c'est quand même quelque chose qu'on découvre en France, c'est-à-dire que c'est une idée assez française en même temps, c'est-à-dire que c'est quand même une idée assez étonnante, c'est-à-dire que l'État décide de créer une république numérique. Ça peut étonner quand même, c'est-à-dire que c'est...
Ouais. Oui, mais prenez le cas de Cielo, par exemple. C'est pareil, c'est du service public.
Le quoi, pardon ?
Cielo.
Oui.
Le CSIC en Espagne, c'est du service public, en fait. Par contre, là où il y a des modèles vraiment, vraiment différents, c'est évidemment dans les pays anglo-américains.
Ouais.
Donc, prenons le cas de la Grande-Bretagne. Ça, c'est très intéressant. Vous avez des éditeurs. Vous n'avez pas de service public, de plateforme de diffusion en libre accès, etc. On connaît la situation en Grande-Bretagne. Donc, ce que vous avez, c'est que vous avez des éditeurs, des nouveaux éditeurs académiques qui se créent, qui se sont créés de manière assez récente, qui ne sont pas soutenus par des fonds publics, mais qui créent des modèles économiques basés sur le libre accès, qui fonctionnent comme des entreprises, sauf que dans la plupart des cas, ce sont des charities, donc ils n'ont pas le droit de faire de profit. Mais par contre, comme ils ne sont pas soutenus par des fonds publics, ils sont obligés d'équilibrer leur budget d'une année sur l'autre. Donc ils ont des vrais problèmes de business model, si vous voulez, enfin des vraies questions de business model à assurer. Et on pourrait se dire, avec de l'open access, ils ne pourraient pas. C'est impossible, puisque c'est ce que vous disiez, si l'article est gratuit, comment on peut commercialiser quoi que ce soit autour de ça ? Ben non, ils montent justement, ils ont tout... Il y a toute une innovation en termes de modèle économique pour quand même avoir des modèles économiques qui fonctionnent avec le libre accès. C'est le cas d'OLH. OLH, c'est assez intéressant. C'est un Open Library of Humanities, je l'ai cité tout au début. C'est une initiative récente proposée par, créée par Martin Eve et Caroline Edwards, qui sont deux profs en fait, de littérature anglaise assez jeunes dans deux universités britanniques. Et ils ont créé une plateforme pour diffuser des revues d'humanité, véritablement en accès ouvert. Sur quel modèle économique, comment faire ? Eh bien, tout simplement en faisant le tour des bibliothèques et en leur vendant rien, mais en leur disant, vous pouvez soutenir le libre accès en participant, donc c'est un principe de souscription, en participant en fait au financement de la plateforme qui va bénéficier à l'ensemble de ces revues. Et comme les bibliothèques nord-américaines, en particulier britanniques aussi, et allemandes, selon d'autres modalités dont je peux parler si ça vous intéresse, mais là je me concentre uniquement sur ces deux pays, ont des missions de promotion, de diffusion et de soutien à l'open access, bah, du coup, elles participent financièrement. Alors, je ne sais plus combien ils sont à mon avis, autour de 200 bibliothèques participant à ce programme, ce qui fait pour chaque bibliothèque pas grand-chose en fait à donner. Mais là, c'est de la mutualisation de moyens, en fait, tout simplement, pour permettre à des revues de se diffuser en accès ouvert. C'est un modèle économique intéressant, je trouve.
Est-ce qu'il y a des ponts entre les différentes plateformes, revue.org, celle en Amérique latine, celle en Espagne ? Est-ce qu'il y a des collaborations, les revues sont accessibles ? Il y a des liens ? Est-ce que vous avez des partenariats avec les différentes ?
Alors c'est en discussion et c'est pas simple. Donc je vais être vraiment tout à fait honnête. Par exemple, ça fait plusieurs années qu'on est en discussion avec Cielo autour de la question de l'indexation mutuelle de nos revues, par exemple, ou de la diffusion mutualisée de nos revues. Je ne vais pas entrer dans le détail technique parce que ça passe par certains développements technologiques particuliers pour les rendre compatibles, interopérables, comme on dit. Mais oui, c'est en discussion et je pense que c'est quelque chose qui va finir par arriver de manière plus efficace que ce qui est le cas aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est pas très efficace. Donc la réponse est plutôt non aujourd'hui, mais il y a quand même des discussions et une volonté qui est en train d'émerger. Oui.
Alors moi, j'ai une question pour vous. En fait, quand vous parlez de page vue, c'est quoi ? C'est quoi exactement la page vue ? Est-ce que c'est juste la page qui s'ouvre ou est-ce que c'est la page qui a été lue en entier ? Est-ce que c'est l'article qui est lu ? Parce que bon, tout, c'est aussi un peu la guerre des chiffres. Donc, c'est quoi les statistiques de consultation ? Et qui est le nerf de la guerre du CNRS, je dirais. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une, au niveau des consultations, qu'est-ce que sont les pages vues ? Et l'autre question, c'est que, par exemple, vous dites, on va prendre volume, que bon, c'est la France qui est en premier, et après, c'est les États-Unis en consultation. Et du coup, c'est sur les textes en français, sur les textes en anglais.
Ben là, j'ai pas pu entrer dans le détail de ça. Ouais. J'avais pas. Mais oui, ce serait intéressant de voir.
Voilà.
Ouais, absolument.
Pour du coup savoir quel est, parce qu'il y a du public aussi aux États-Unis qui lit en français.
Absolument.
Et du coup de savoir quelle proportion et du coup l'intérêt de traduire ou pas.
Ouais.
Si et du coup un petit peu pareil pour chaque revue, si sur la littérature turque c'est le JTS là. C'est plus passionnant comme revue. Si, et c'est les États-Unis en premier, donc est-ce qu'ils lisent en anglais ou est-ce qu'ils lisent en turc ? Et du coup, quel réseau linguistique.
Ou est-ce qu'ils lisent en allemand ?
Ou en allemand ? Et quel réseau linguistique, du coup, on arrive à toucher ? Et du coup, l'intérêt de ces traductions, si ça reste sur l'anglais, ça reste la langue la plus importante, ou alors c'est dans des autres langues, ce qui est quand même plus intéressant intellectuellement.
Ah oui, je suis assez d'accord.
C'est ça. Et après, c'est la définition de la page vue, en fait.
Oui, bah alors je peux pas répondre à la deuxième question parce que effectivement ça demanderait de suivre en fait et de raffiner, de faire une étude spécifique. Alors on a été très triste pendant très longtemps que personne ne s'intéresse à nos données de consultation, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de chercheurs en sciences d'information et de la communication qui viennent nous dire mais donnez-moi vos logs parce que ça m'intéresse de répondre à ce type de questions par exemple. C'est quand même en train de changer. On commence à avoir des équipes qui viennent nous voir avec cette démarche-là. Donc, réponse dans quelques années, d'accord. On peut espérer. Sur la première question, oui, une page vue, c'est une page qui s'affiche en entier dans un navigateur web.
D'accord.
Alors, est-ce que derrière l'écran, vous savez le fameux dicton hein, sur Internet, c'est quoi le truc ? Sur Internet, personne ne sait que vous êtes un chien, en fait. Hein, c'est qui est derrière l'écran ? Est-ce que c'est un chien ? Est-ce que c'est on ne sait pas. Est-ce que c'est vraiment lu ? Mais je me permets de retourner la question. Lorsque vous dites une vente. Quel est l'usage
du coup, on a une vente et qu'on vend et qu'on envoie. Ah non, après, est-ce qu'il le lit ce genre
Voilà.
Non,
c'est ça.
Ah, bon, en tout cas, nous, il nous a payé. Donc, sur le modèle économique, on a reçu. Non, mais c'est juste une question parce que comme c'est. C'est pas une critique, mais.
Non, bien sûr.
C'est. Les contraintes aujourd'hui du CNRS pour l'aide à ces revues et c'est pas des demandes que je trouve. Injustifié, hein, c'est pas du tout ça. Mais du coup, c'est vraiment autour de la consultation et que ça a été une des grandes discussions autour des consultations, soit chez Cairn ou chez G-Store, parce que Cairn, c'est vraiment le PDF téléchargé, donc on sait qu'il. Enfin,
ça veut pas dire qu'il est lu, mais.
Non, mais ça va jusqu'à. C'est pas un clic où ils vont rentrer dessus et dire oh mince, je me suis trompé, je m'en vais.
Ben,
au moins,
un clic et ça déclenche un téléchargement.
Voilà. Non, mais du coup, ça a été toute une discussion, en fait, avec le CNRS. Et voilà. Du coup, ça m'intéressait de voir où s'il y avait quelque chose de plus précis pour répondre au CNRS.
Non, mais c'est la vraie question, effectivement. C'est-à-dire, on a tout un tas de mesures que l'on prend comme des mesures d'usage. Avant qu'Internet existe, c'était les ventes, en fait. On disait, plus c'est vendu, plus c'est lu, a priori. Mais on... Voilà. Là, maintenant, on a des mesures de visite, de visiteurs, de pages vues. Et on n'est pas sûr que les gens lisent beaucoup ou de téléchargement, parce que pour moi, c'est la même chose. Techniquement, c'est vraiment la même chose. Hein. Afficher une page, c'est télécharger une page, en fait. Donc, ça revient vraiment au même. Et ce qu'on voudrait savoir, c'est si les gens lisent vraiment. Alors après, vous avez une autre mesure, qui est la mesure de citation. Mais là, c'est pareil. Ça donne lieu. Est-ce qu'on peut mesurer vraiment l'usage réel ou l'influence intellectuelle réelle d'un article par le nombre de citations de cet article ? Il y a tout un tas d'études, alors là, Gingras est très spécialiste là-dessus, qui montrent qu'il y a des biais qui sont énormes et qu'en fait, ces indices de citation ont énormément de biais. Donc, alors, je pose la question à tous. Du coup, pourra-t-on jamais savoir si les textes sont vraiment lus?
Mais du coup, ça serait un vrai outil de, enfin, un vrai sujet de recherche.
Oui, ouais, absolument.
J'ai une autre question. Pour Relu.org, quelle est la politique pour les métadonnées? Est-ce qu'elles sont toutes traduites? Est-ce que c'est imposé aux revues de traduire le Lastwack, les titres, etc. en anglais? Est-ce que c'est chaque revue fait comme elle peut? Est-ce qu'il y a une aide pour ça de la part de Cléo pour aider les revues justement à faire traduire? Comment ça se passe? Est-ce que ça attire aussi un lectorat? Est-ce que les métadonnées attirent un lectorat international? Est-ce qu'on peut le savoir? Ou est-ce que ça fait partie d'un flou statistique qui ne permet pas de savoir exactement si le fait que les métadonnées soient en anglais, s'il y a des abstracts, etc., ça attire du lecteur ou en anglais ou en espagnol enfin?
Oui, oui. Donc, il y a une quasi-obligation qui est c'est une très forte recommandation qui est une quasi-obligation d'avoir des métadonnées dans deux langues au minimum, c'est-à-dire la langue d'origine et l'anglais, mais ça peut être aussi une autre langue en fait. Donc, du coup, on n'a pas tellement de points de comparaison parce qu'on a, à ma connaissance, pas vraiment de revues qui n'ont que des métadonnées qu'en français et qu'il faudrait pouvoir comparer avec la même revue du même type qui aurait ces métadonnées en plusieurs langues. Effectivement, le pari que l'on fait, mais c'est un pari, c'est que le fait d'avoir des métadonnées dans plusieurs langues favorise la découvrabilité, pour utiliser un anglicisme, du contenu par l'intermédiaire des moteurs de recherche, par l'intermédiaire des systèmes d'information, et ainsi de suite. Alors, Marin Dacos en particulier a une idée très précise là-dessus, qui consiste à dire qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir des métadonnées en plusieurs langues, mais il faut avoir des métadonnées riches. Et donc, il promeut beaucoup la notion de long résumé. Pourquoi ? Parce que, en fait, si les articles des revues ont des résumés courts, quelle que soit la langue, pour le coup, selon lui, c'est un héritage d'une époque très antérieure de l'imprimé, où, dans les bibliothèques, justement, on rassemblait, en fait, on demandait aux revues d'avoir... En fait, les revues publiaient les résumés des articles sur la dernière page de la revue, pour que ça puisse être photocopié par les bibliothécaires et distribué. Et donc, il fallait des résumés courts, parce qu'il fallait que tous les résumés tiennent dans une seule page. Donc ça, c'est un héritage de l'imprimé. Et par habitude intellectuelle, en quelque sorte, on a continué à faire des résumés courts. Bon, c'est son interprétation, j'imagine que ça se discute, mais je trouve ça intéressant. Et donc, lui, il essaye de promouvoir le fait qu'il y ait des résumés longs, riches, qui favorisent, encore une fois, qui permettent une sorte de curiosité intellectuelle, en fait, qui engage le lecteur à aller plus loin, parce qu'il va savoir exactement de quoi parle l'article. Alors que souvent, avec des résumés très courts, finalement, on ne sait pas très bien. Combien de fois on lit le résumé, on se dit « Ah, cet article, il est super », puis qu'on lit « Bon, en fait », etc. Donc voilà, c'est un peu comme ça qu'on se positionne, sauf que, à mon avis, il faut prendre, et ça c'est moi qui le dis pour le coup, il faut prendre en compte la question de la force éditoriale, parce que faire des résumés longs, et en plus en plusieurs langues, c'est beaucoup de travail, pour les secrétariats de rédaction en particulier, et surtout si on veut faire des résumés longs en plusieurs langues et de bonne qualité linguistique. Donc là, il y a un vrai nœud, mais vous en avez déjà parlé en fait un peu à l'occasion de la traduction avec Kern des métadonnées, des résumés. Et je sais, pour avoir discuté avec des gens de Kern, qu'ils ont été très déçus au début des premiers retours qu'ils avaient sur les traductions et qu'ils ont dû faire énormément de travail pour l'amélioration et investir de l'argent en fait, du coup, pour l'amélioration des métadonnées.
Mais et beaucoup sur les métadonnées, en fait. Bon, après, c'est. Du coup, les éditeurs ont beaucoup investi aussi pour améliorer ça, mais ça a été aussi un levier pour dire aux revues, attention, travaillez bien vos métadonnées ou vos résumés, c'est quand même un vrai outil de visibilité, de découverte, et donc à eux aussi d'améliorer et le texte en français, d'en faire... on reste sur des textes courts, nous, puisqu'on a encore le modèle imprimé, donc du coup, on ne peut pas trop dépasser notre pagination. Mais d'améliorer en fait et le contenu en français et après de faire appel à des vrais traducteurs pour un travail plutôt d'editing derrière pour avoir des métadonnées qui sont et des résumés qui soient qualitatifs en fait, parce que il y a rien de pire qu'un texte en anglais qui est une traduction Google et qui du coup ne donne pas envie et qui donne une mauvaise image de la revue, enfin, ça,
absolument,
donc ça a été ça a été un petit peu sévère. Et beaucoup de revues ont été très choquées de leur évaluation. Mais du coup, ça a été l'occasion aussi pour les revues de mettre en place des systèmes de soit de traduction avec des vrais traducteurs, et que ce soit pas le chercheur qui bidouille un peu en anglais et qui fait sa traduction, ou alors plutôt faire appel à des l'editing avec des éditeurs.
Mais du coup, ça coûte cher.
Ça rajoute. Mmh. Mais bon, c'est, je pense que si, voilà, si on veut être visible et si on tient à ça et si on prétend une certaine qualité académique aussi, ça implique de, d'avoir de la qualité au niveau des métadonnées et de la diffusion qu'on en fait.
Mmh. Il y a eu beaucoup de discussions là dans le coin des annales. Mais ne s'exprime pas dans...
moi j'avais une question, oui, peut-être pour... ce que vous avez dit sur Cannes, en fait, que la commercialisation et la bouquet, ça avait multiplié le nombre d'institutions abonnées. Enfin, c'est ce qu'on suppose parce que ça paraît logique, mais finalement, The Cannes commençait. Enfin, on ne produit pas de statistiques, en fait, et donc on n'a aucune idée finalement. Parce que je pareil, dans tous les bouquets, on a un nombre de clics qui a. C'est multiplié de façon exponentielle, mais bon, on n'a aucune idée en fait de quelles institutions nous misent vraiment.
Non.
Donc, quel pays c'est vrai que c'est un plus que les portails pourraient ajouter en général. Et je trouve qu'on n'a vraiment aucun.
C'est une vraie.
Il y a une carte des abonnements à Cannes International.
Oui.
Donc, on peut voir quelles sont les universités, par exemple, qui sont abonnées.
Les universités au niveau des institutions.
Oui, oui.
D'accord.
Okay. C'est assez effrayant parce qu'on réalise qu'il y a,
pas les
zones entières qui ne sont pas du tout ouvertes.
Non, après, c'est juste que pour des petites revues, c'est une opportunité d'être présent parce qu'on est on est dans les bouquets en fait. Alors après, vu que c'est le calcul, disons que le fait de mettre une petite revue dans un bouquet, par exemple en sciences politiques, pour raison politique, ça, c'est à dire qu'elle est dans les bibliothèques, parce qu'autrement elle ne serait pas dans les bibliothèques. Après, ça, y a quand même la comptabilité de CAIRN, Delphine, tu me diras si je me trompe, donc il y a une partie qui est du poids des revues, pour l'éditeur, du poids de revues dans CAIRN, mais il y a aussi les consultations à la revue, en fait. Au niveau des rémunérations, il y a aussi le poids, enfin ce que la revue, les consultations qui sont propres à la revue, en fait. Donc on a quand même ces relevés là en fait. Après, pour savoir combien de, alors après, oui. On n'a pas forcément l'institution derrière qui a fait, mais du coup on voit aussi, enfin nous ça nous permet de suivre aussi sur les années un peu si la revue est consultée ou pas consultée. Est-ce qu'on arrive quand même à avoir un chiffre pour la revue,
parce que souvenir, c'est vrai que c'était le détail. Telle institution va pouvoir consulter donc c'est une qui arrive là.
Voilà, Pierre, on travaille aux statistiques.
Donc il y aura un nouvel outil. C'est un vrai nécessité.
Il y aura un nouvel outil bientôt, c'est ça?
Oui, pardon. Un outil qui détaille, qui est plus lisible et qui distingue plus les institutions non francophones ou francophones. Et les institutions qui consultent le plus, les articles consultés, etc. Ce qui, avant, c'est les informations brutes, donc il fallait faire des tris soi-même, enfin, la revue devait faire des tris et des consultations sur l'article. Et là, les statistiques étant importantes pour toutes les décisions éditoriales, etc., on affine aussi, enfin, nous, ça nécessite tout un travail technique derrière, mais pour pouvoir fournir des informations plus souhaitables.
J'avais une autre question par rapport à Police, parce que vous avez dit que c'était une revue qui était sur plusieurs plateformes.
Oui, elle est sur Cielo aussi.
D'accord. Et donc, en fait, comment ça se fait que les lecteurs d'Amérique latine ne vont pas sur Cielo? Ils vont sur... Enfin, vous savez...
Bah oui, non, je sais pas. C'est intéressant. Je sais pas pourquoi.
Cielo aussi est gratuit.
Ah mais non, mais en fait, si ça se trouve, ils vont aussi sur Cielo. Enfin, peut-être que le... Mais alors, effectivement, et là, c'est là que la coopération avec les plateformes serait intéressante.
Cielo, c'est un peu là, n'est-ce pas?
Alors, effectivement, Cielo diffuse des versions PDF uniquement, sauf pour les revues brésiliennes. Donc là, je pense que c'est que du PDF. Donc la question, ce que tu es en train de suggérer, c'est que la question du format est peut-être importante, c'est ça ?
Si, par exemple, la façon dont j'ai découvert la revue PowerWeb en venant d'Italie, c'est banalement mon temps de recherche. En faisant des recherches sur mon sujet, je tombais régulièrement sur le blog parce que le moteur de recherche me fournissait directement les contenus des articles. Donc si ça pourrait être la raison, donc banalement des étudiants qui n'ont pas accès direct aux ressources, ils cherchent sur des moteurs de recherche externes, ils tombent sur un contenu qui est relativement disponible.
Mais c'est pas le PDF qui est plus compliqué à référencer et tout ça. Du coup, il n'y a pas de recherche en PDF. Donc, si c'est sur du HTML, c'est plus simple pour faire ressortir ou pour aller sur des moteurs de recherche, le HTML, le PDF, c'est fermé, c'est plus compliqué d'avoir accès aux mots et à faire ressortir. Donc ça peut être une explication, parce que le PDF bloque après. Donc, c'est une image, il n'y a pas de recherche sur les mots, sur les thématiques dans les PDF.
Donc, on est à cette question, est-ce qu'une revue aura intérêt sur plusieurs plateformes c'est déjà le cas de Gestor et de Kern, mais est-ce que il faut être aussi sur Cielo pour atteindre le public de l'Amérique latine?
Ben oui, effectivement, la réponse n'est pas simple, parce qu'il y a l'exemple de Police qui cherche à toucher un public européen en se mettant sur RevuePorg et qui touche un public sud-américain. Donc, après, la question, c'est est-ce qu'on peut généraliser à partir de Police? Moi, je ne le pense pas. Je pense que si on veut avoir une vraie réflexion sur le sujet, il ne faut pas se baser uniquement sur la question de la langue. Mais sur la question des objets, c'est évident que les communautés scientifiques, surtout en sciences humaines et sociales, ne s'intéressent pas forcément aux mêmes objets, aux mêmes sujets, n'ont pas forcément les mêmes méthodes, selon les différentes zones géographiques. Et donc, en gros, même si vous parlez la langue ou si vous lisez la langue, si ça traite de sujets que vous n'étudiez pas, vous ne lirez pas les articles, tout simplement. Donc, c'est pour ça, pour moi, Police. D'ailleurs, c'est pas un échec. Du coup, ils ont une très belle fréquentation sur RevuePorg. C'est très bien, et c'est très bien que cette fréquentation vienne d'Amérique latine. Il n'y a aucun souci. Mais quand même, ça montre que la question de la plateforme de diffusion de la langue n'est pas suffisante. C'est vraiment la question des objets et des réseaux scientifiques qui, à mon avis, est intéressante.
Et du moment où la recherche et de ce qu'on est en train de faire, on va donner. Sur un sujet.
Ouais, c'est ça.
Que le fait de chercher en amont sur des contenus à libre accès à HTML n'empêche pas ensuite d'avoir parfois besoin du PDF et parfois besoin d'aller chercher les livres ou la revue parce que je dois faire mes écritures dessus. À différents stades, j'utilise des objets différents qui sont compatibles.
Peut-être que ce serait intéressant que vous disiez un petit peu pour la revue L'Homme les réflexions actuelles sur l'internationalisation. On n'est pas très longtemps à Neda. Oui, et nous, ça n'aime pas tellement tout le monde dans nos choix. On est comme on est un ensemble de revues aux éditions et.
En fait, il n'y avait pas autonome dans les choix pour des questions financières.
Pour bien dire la question. Non, mais c'est pour dire que on n'est pas maître d'une politique. Là, par exemple, on a signé un accord tripartite avec Kern et RevuePorg. Toutes les revues de l'école, ça. Donc, en réduisant la barrière mobile à 2 ans plus 1. Ça ne résout pas tous les problèmes. Enfin, pour l'instant, on a encore.
Je voulais faire de l'accord entre Kern et Revue.org. Peut-être que ce n'est pas très clair, mais effectivement, c'est ce que Pierre a expliqué, que plusieurs revues ont une partie de leur production, la plus récente, donc sur Kern, et ensuite. Sont pour une partie de leur patrimonial sur une point or, une partie ensuite plus ancienne, par exemple sur Percy, qui est un modèle qui s'est installé traditionnellement, par exemple, pour les revues de l'HESS, publiées par les éditions de l'HESS. C'est un modèle qui s'est un peu installé.
Après, voilà, on a un gros problème de diffusion, par notre point de vue. puisqu'on essaye de publier des auteurs internationaux, il nous est déjà arrivé qu'on ait publié des auteurs qui n'ont pas accès à leur article, parce que leur université n'est pas abonnée à CERN, au Canada, en Amérique latine, en Europe. Et donc, du coup, ils n'ont pas accès à leur article. Voilà, c'est un gros problème que nous souhaiterions résoudre. Il n'y a pas à thermomètre de nos choix.
Oui, parce que toutes les plateformes n'acceptent pas non plus une demande, certaines formes d'exclusivité pour un certain temps de diffusion, voilà, en fonction du type d'accord.
Par rapport aux auteurs, normalement, ils se tirent à part.
Oui.
C'est leur article, ils ont accès à leur article, qu'ils ne puissent pas consulter parce que leur institution n'est pas. Si c'est un article récent.
Mais c'est difficile pour nous de vendre la revue lorsque les conditions d'accès sont si mauvaises à l'étranger.
Ah oui, ben.
Enfin, là, pour l'instant, c'est désastreux, je ne vais pas le dire. Mais parce que sur Vuitborg, on est jusqu'à 2003, les articles. Donc, pour les universités qui n'ont pas accès à CERN, l'homme n'existe pas. Maintenant, voilà, en janvier, ça devrait être mis à jour jusqu'à la barrière mobile. Donc, au moins, il y aura un certain nombre.
En fait, si je comprends bien, et ça c'est vraiment intéressant, le problème c'est pas tellement que l'auteur n'a pas accès à son article, parce qu'évidemment j'imagine que vous lui envoyez son tiré à part électronique, mais c'est que ses collègues de son université n'ont pas accès à son article, ils peuvent pas le lire. Et ça c'est très problématique effectivement, parce que qui le cite? Ses collègues, justement. Donc c'est la question de la localisation, quoi.
Et en tout cas, même pour nous, pour que les gens aient envie de publier dans l'homme et pour en faire une revue peu plus international que nous l'avons, il faut qu'on puisse proposer des conditions d'accès.
Ouais,
c'est tout en fait. Enfin, au bout de 3 ans, un article est déjà plutôt vieux. Mm-hmm. Et donc, voilà, les auteurs n'ont pas un grand intérêt à publier dans l'homme si c'est une revue qui est peu accessible. Mm-hmm.
Qui peut être accessible dans ces universités aux États-Unis, en plus. En France, c'est quand même accessible.
Oui, en France, bien sûr. Non, mais
dans comme on essaie. En Allemagne, et aussi en Europe en général.
En Allemagne, CERN International est accessible à 2 ou 3 établissements. En Italie, c'est pareil. Et je veux dire, ils sont très francophiles. C'est des lecteurs, en fait, mais vraiment. Connu en Allemagne ou en Italie, par exemple. Ils n'ont pas. Là, il y a encore des abonnements papier, mais en Italie, c'est 2 institutions qui ont abonnement à CERN.
En fait, c'est aussi le problème du passage d'une revue qui fonctionnait sur des abonnements, puisqu'en fait, avant, comment on mesurait l'impact d'une revue? Au nombre de bibliothèques qui étaient abonnées à cette revue papier. Et finalement, les usages numériques des revues sont arrivés il y a assez peu de temps pour que il y a peut-être des mécanismes qui ne se sont pas mis en place. Alors, effectivement, après la solution passée en open access pour toutes les revues, enfin, pour toute la production d'une revue, y compris les numéros les plus récents, c'est complètement un autre type de fonctionnement en termes d'économie de la revue et aussi de son système de diffusion. Et juste pour l'histoire des revues type l'Homme, la diffusion, telle qu'on la mesure, était très récemment cette histoire d'abonnement de la revue papier. Donc les universités dont on parle, soit elles sont des abonnées, soit elles n'ont jamais été abonnées en fait à la revue. Donc c'est vrai qu'il se met en place d'autres logiques de diffusion qu'on n'a pas forcément.
C'est de moins en moins d'abonnement papier et ça n'est pas compensé par un accès numérique.
C'est un peu ce que disait Pierre sur cette question de localisation et de globalisation. Je trouve que c'est très intéressant de comprendre comment ça s'articule. Est-ce qu'on peut penser c'est une diffusion globale? Est-ce que ça résoudrait tout le problème de dire tout en accès libre
et comme ça tout le monde aura accès et donc il y aura
une vraie diffusion.
Est-ce que ce sera une vraie diffusion?
Ce serait pas nécessairement de l'accès, parce que par exemple, ça nous est passé par GSoft, voilà, il y aurait beaucoup plus d'universités qui auraient accès à la revue, sans que ce soit un accès libre.
Et pourquoi il y a, le choix n'a pas été fait de GSTOR du coup?
Pour le récent, parce que pour tout le patrimonial, en fait...
Bien sûr, c'est comme les revues...
Voilà, tout le patrimonial...
Nous, on commence à passer à baisser les
revues. Sur GSTOR, c'est une revue de 5 plus 1. Donc, voilà, c'est le même...
C'est-à-dire que les articles publiés au cours des 5 dernières années ne sont pas du tout disponibles dans le GSTOR?
Mais... Je pense que ça ne dépend pas de nous. Donc, je pense que les éditions...
Vous pouvez vous mettre sur Muse. Vous pouvez vous mettre sur Muse.
Mais on pourrait aussi se mettre sur GSTOR. Hein. Enfin, c'est juste un choix des éditions. Ah, il s'agit de changer le contrat. C'est, c'est un choix qui a été fait, je pense, il y a 10 ans.
Ça, c'est son contrat. Moi, je ne connais pas tous les ressorts du contrat avec Herne exactement.
Il y avait une sensibilité dans le contrat avec Herne. Parce que nous, on était sur GSTOR, on était sur Muse, on était sur Cairn.
Oui, sur GSTOR,
il n'y a pas d'exclusion.
Non, on n'avait pas de... Mais on était sur Muse, donc on n'avait pas de...
Et sur Muse, sans Maria.
Sans Maria Mobile.
Mais nous, pour une revue, on n'a pas de Maria Mobile sur GSTOR, parce que c'est la revue économique, et du coup, ça n'a pas vraiment de chance d'avoir 3 ans sur l'économie de barrière mobile, parce que 3 ans, c'est... voilà, il n'y a plus cette actualité-là. Donc, pour certains... pour certaines revues ou certaines thématiques, c'est important qu'il n'y ait pas de barrière mobile et que ce soit en accès. Et finalement, ça reste complémentaire, en fait. Parce qu'on n'a pas... au moment où on a décidé d'arrêter la barrière mobile chez GSTOR, on n'a pas vu nos revenus Cairn chuter. C'est juste que, du coup, c'est d'autres endroits de lecture que Cairn n'a pas encore... oui, voilà, c'est ça. Donc, c'est... pour moi, c'est intéressant, mais ça se réfléchit aussi plus en termes de contenu, en termes de... est-ce que c'est intéressant de passer, du coup, sur sans barrière mobile? Et là, ça devenait, pour moi, évident de passer pour de l'économie. Enfin, voilà. Et il n'y a pas d'exclusivité. Et je pense que sur... peut-être pas démultiplier à l'infini le nombre de plateformes, mais bon, il suffit de questionner aussi les chercheurs et de savoir avec quel outil ils travaillent. Et s'il y a 5 grosses plateformes qui ressortent, c'est intéressant de réfléchir sur ces 5 plateformes. Après, démultiplier, je ne crois pas qu'il ne faut pas non plus fragiliser tous les acteurs. Mais je pense que c'est aussi une question de revenir aux chercheurs et de dire, voilà, vous, quand vous travaillez, sur quelle plateforme vous allez chercher les informations, comment vous allez chercher vos ouvrages. Et s'il y a 2 ou 3... acteurs qui ressortent, je pense que c'est intéressant d'être sur ces 3-là, qui sont finalement, il n'y a pas non plus, il n'y a pas non plus 25 grosses plateformes de recherche, sauf après à être sur du plus local ou ce genre de choses, mais sur les gros internationaux, on est Muse, GSTOR, Cairn, parce qu'après même en langue anglo-saxonne, je ne sais pas si au-delà de Muse et GSTOR... c'est quand même, en tout cas, c'est les noms qui sont les plus ressortis en questionnant les chercheurs. Et donc, il n'y a pas... voilà, je pense qu'il faut aussi, en tout cas pour parler au directeur des maisons de l'EHESS, c'est de revenir aux chercheurs et de leur dire, voilà, les pratiques, aujourd'hui, c'est ça. Et nous, on n'y est pas. Donc, on ne peut pas répondre à un besoin d'un chercheur. Parce que c'est... ce qui est important aussi.
J'étais partie pour vous suivre à la Journée aux chercheurs, et puis là, j'ai levé ma gueule, parce qu'en fait, pour moi, la Journée aux chercheurs, c'est justement c'est de mieux comprendre ce qu'ils font aujourd'hui. Et pour en rajouter un peu sur la question des réseaux des connaissances, par exemple, des réseaux de recherche plutôt, des réseaux de travail, parce que c'est ça, je reviens sur l'exemple de la revue Rebus. Parce qu'à un moment donné, on a vu arriver sur l'UPOR, dans nos bureaux, des demandes qui venaient de revues italiennes de philosophie de droit. Et on s'est demandé longuement d'où elles venaient, parce qu'on n'a jamais fait de présentation spécifique dans ces universités-là, on ne connaissait pas ceux qui les portaient. Et finalement, les filles, en fait, c'était les directeurs de la revue Rebus qui avaient intérêt
lui et ses équipes de recherche, à que ces revues soient présentes sur vue.org, ou en tout cas dans un endroit où elles puissent être facilement lisibles et citables, mm-hmm. parce que ça a contribué à sa discipline finalement, et donc à son travail, et donc à la lisibilité de son travail, et donc au fait que tout ce qu'il fait, tout ce que son équipe fait, soit cité, diffusé, et porté ailleurs. Donc, revenir aux chercheurs, à mon avis, c'est plutôt ça, se demander comment ils constituent aujourd'hui leur réseau, pourquoi l'homme est moins lu en Italie aujourd'hui, ou si c'est seulement une question de diffusion, ou si c'est aussi une question de changement des réseaux de recherche, à essayer de se poser aussi ce type de questions des réseaux de recherche et non seulement de la diffusion technique de la vue.
Les deux
vont ensemble, mais ne pas se focaliser sur une, enfin, tenir les deux en même temps.
Moi, j'avoue que je suis un petit peu surprise quand même de la discussion. Je pensais qu'il y aura, parce que c'est très, je pense que c'est, il y a des problématiques, mais en fait, vous êtes bien d'accord pour suivre une dynamique qui est déjà en place. C'est-à-dire, moi, je me suis préparée à cette séance en lisant Philippe Minard et en évoquant la fin des revues du point de vue économique et spirituel. Mais
en tout cas pas sur du confus, non, je crois pas.
Ce soit ce qui est devenu visible, c'est plutôt un mélange de politiques différentes qui attaquent plusieurs points différents, c'est-à-dire la délocalisation, la multiplication des stratégies et des modèles économiques qui ouvrent plutôt une marge de manœuvre qu'autre chose. C'est-à-dire, moi, je trouvais ça très beau, très, très libre, c'est-à-dire ça fait respirer, vraiment penser au-delà de certains présupposés de logique qu'on peut avoir, je pense aussi, dans le tout
personnel. Après, je ne pense pas que les revues, dans le sens où c'est une publication de recherche avec un comité de gens qui lisent, qui approuvent et tout ça, je pense que ça c'est... J'espère que ça disparaîtra pas, parce que je pense que c'est important que la recherche soit publiée. Après, sur son modèle de diffusion, c'est ce que je disais. Il y a sur certains, pour certaines revues, ça a encore du sens d'avoir du papier, parce que, a priori, puisqu'il y a encore des gens qui le prennent, il y a encore de l'intérêt. Peut-être pour d'autres, il faudrait passer que tout en numérique. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas... c'est pas la guerre entre papier et numérique. Je crois qu'il ne faut pas non plus rester sur ces modèles-là. Le travail intellectuel et la validation d'un travail par ses pairs reste quelque chose d'important dans la recherche. Donc, pas forcément de juste mettre des textes pour mettre des textes, parce que là, on vient à un blog et du coup, il n'y a pas cette validation scientifique. Donc, les revues en tant que structure, en tant que comité scientifique restent, à mon avis, toujours importantes. Après, sur le modèle de diffusion, aujourd'hui, on n'est pas sur... c'est pas si tranché, en fait, je pense. Donc, on n'est pas... certains modèles ont encore à exister. Peut-être que je reviendrai dans 5 ans et je vous dirai qu'il faut arrêter tout le papier. Je ne sais pas, mais aujourd'hui, en tout cas, ces modèles-là perdurent. Et il n'y a pas... Certains chercheurs sont quand même prêts aussi à dépenser des sommes monstrueuses pour être publiés dans des revues anglo-saxonnes en papier et diffusées en papier. Donc, du coup, ça reste encore sur des modèles qui restent sur du papier. Mais voilà, nous, des réflexions se posent sur certaines revues pour savoir est-ce qu'on a encore intérêt à investir autant. Parce que quand même, là, appartenait pour nous sur une impression papier ou alors passer que en numérique. Et du coup, si elle est en numérique, est-ce qu'il faut que ça reste diffusé par un éditeur privé, ou alors c'est que le labo qui le prend et c'est de l'open access. Enfin voilà, ces réflexions peuvent se poser aujourd'hui, mais c'est pas si tranché que ça, je crois.
Ouais, je suis assez d'accord. Je pense que la montée en généralité serait vraiment désastreuse, en fait. Les situations sont très contrastées. C'est ce que chacun on a essayé de montrer, pour le coup. Mais je suis d'accord avec ce que vous dites. C'est aussi, du coup, une période plutôt passionnante, parce que ça rouvre un champ des possibles et ça donne la possibilité de créer, d'inventer. Il y a plein de gens qui réinventent des choses, en fait, autour de la revue. Donc il y a un autre séminaire de l'EHESS sur l'histoire des revues qui est animé par... je vais retrouver son nom, mais en tout cas qui étudie l'histoire des revues scientifiques dans une durée longue depuis le 19e siècle et qui montre qu'il y a toujours eu dans cette histoire des revues des périodes de création-destruction en fait, donc il y a des formes qui disparaissent et d'autres qui apparaissent pour répondre à des besoins. Je suis embêté pour le nom parce que bon bref. À des besoins qui peuvent être différents. Et donc je crois qu'on est dans cette continuité là.
Et je crois que c'est très riche. C'est pas de l'opposition frontale en fait. Oui. Je pense que c'est ça aussi qui est important, c'est que il y a certains modèles, il y a des réflexions à avoir, mais c'est pas de l'opposition si systématique en fait. Et en tout cas, pour l'instant, les deux modèles coexistent. Je pense qu'ils existeront encore quelques temps.
Mm-hmm. Merci beaucoup pour
merci à vous.
Vos interventions, vos questions. On continuera encore une séance avec les revues dans le cadre d'une séance dans le théâtre au mois de mars. On vous donnera des informations. Sur les revues, on va avoir d'autres. La prochaine séance aura lieu au mois de janvier. Et ça, ce sera les séances spéciales.
La prochaine fois, il faut que tu nous expliques quand même si c'est le fantasme de la visibilité totale.
Fantasme de
la visibilité totale.
Il y a quand même quelques fantasmes.